voilà, qui, comme vous le savez, enfin, on n'a pas besoin de présenter, comment dire, à la fois son travail de précurseur, enfin, en tout cas pour moi, qui vient de, d'un domaine plus, comment dire, d'un tropisme plus culturel, donc précurseur dans ce domaine, pour ce qui me concerne, dans le domaine du numérique, mais aussi, moi je suis assez, toujours un peu estomaqué par la rigueur intellectuelle que tu mènes dans tes travaux, y compris sur le plan juridique, et aussi comment cette question du numérique nous intéresse, nous, alors même qu'on pense que ça ne concerne que les sciences dures. Ça nous intéresse aussi quand on ne traite pas des sciences dures, voire même pas des sciences molles, mais aussi de la littérature et de la poésie. Et c'est pour ça que, incessamment sous peu, nous allons avoir une série d'expérimentations et d'abonnements à PubliNet, Publi.net, puisque PubliNet c'est le site du ministère, et qui, oui, qui est venu après toi, et qui nous permettra donc de comprendre et de mesurer comment on peut en effet se servir de cet étrange outil qui est le numérique et toutes ces espèces de comment dire de prothèses pour comprendre, ressentir et communiquer. Alors bon, je meuble parce que pendant ce temps-là il branche et le titre de l'intervention, eh bien, il m'a dit je te le dirai à 4h-10. Donc voilà, donc on va découvrir. Allons-y, jusqu'à 4h-10.
Plus convivial que ça.
Je suis là.
T'es là, tu m'aideras. Hein. En gros, ce qui nous réunit, c'est juste une idée. Et cette idée, c'est pas moi qui vais la développer parce que vous n'avez pas de leçons à prendre. Mais j'espère bien que, bon, même si je parle, je suis bavard, vous verrez, même si je parle une grosseur, on garde du temps ensemble. Puis après, on aura aussi un moment là avec. Une trentaine de volontaires, ça m'a beaucoup impressionné. C'est l'idée en fait unique, c'est que dans cette mutation, le rôle et la place de la lecture publique, des établissements et des gens qui y travaillent, est différente. En même temps, comment on le formule, comment on formule ce rôle différent et comment on apprend à l'exercer et comment ça se dégage justement à mesure qu'on marche. Là, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de possibilité comme ça de discours vertical ni même pas de thésaurisation d'expérience pour l'instant. Quand on dit mutation, ça peut aussi sembler quelque chose, même pas mode ou quelque chose comme ça, mais c'est évident que c'est le paradoxe de tout ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on vit dans un environnement où nous-mêmes, ce qu'on doit pour soi-même de meilleur, et ce qu'on doit aussi de ce qu'on fait, ce qui occupe notre temps, notre activité évidemment, c'est le livre. On a grandi, on s'est organisé mentalement, même dans, je dirais presque même spatialement, par l'univers du livre. Et évidemment, ces petites choses peuvent paraître très embryonnaires, comme. Comme Thierry le dit, s'équiper de ce genre de prothèse, ça peut paraître aussi parfaitement ridicule aussi. Et en même temps, c'est le premier paradigme de chacune de ces mutations, c'est que c'est évident que justement, j'ai pas envie d'entrer dans une justification de cette évidence. C'est-à-dire que ces phénomènes basculent la totalité de ce qui a à faire à la relation du langage au monde, et donc la façon dont ça cristallise et se sédimente, et dans cette façon dont ça se cristallise et sédimente, une des dimensions, même s'il a pris un rôle privilégié pour la mémoire, pour la transmission et pour l'apprentissage, et ensuite même comme une espèce de d'excroissance, comme cette forme esthétique. Et si le mot littérature veut dire quelque chose, c'est là aussi, le livre, c'est qu'un élément de ça. Alors là-dessus, je vais essayer de naviguer un petit peu, j'ai pris quand même 5 points. En gros, il y a des choses qui vont recouper des trucs qui pour vous seront probablement des banalités et tout ça, donc le paradoxe évidemment en ce moment, c'est que tout est comment prendre un point d'appui pour penser, pour pratiquer, pour pas laisser nos pratiques dériver et nous mettre dans des impasses, dans la mesure où justement c'est l'ensemble des éléments qui bougent dès l'amont dans nos ça je vais essayer de développer un petit peu dans les usages privés ou les usages sociaux ou les usages professionnels de comment on utilise l'écrit et comment et cette espèce de lien comme ça pluriel multiple entre les différentes strates de convocation de langage au pluriel dans la totalité de nos pratiques privées, sociales, esthétiques, évidemment ça aussi est déjà traversé par le numérique.
Ouais, ce que je veux dire c'est ça, c'est-à-dire l'endroit où précisément où on pourrait où on devrait légitimement s'appuyer pour que ce soit expérience, pour qu'on puisse justement thésauriser, réfléchir et tout ça, c'est un lieu où dans nos pratiques même, le temps qu'on passe à l'écran, les objets sur quoi on regarde, et évidemment même la totalité justement de ce genre d'usage, de 6 mois en 6 mois, ça va à telle vitesse qu'il n'est pas question de prendre appui. Donc on a à la fois quelque chose qui est embryonnaire, quelque chose qui est instable en amont dans nos pratiques, en aval, là où on convoque la lecture, au milieu de l'amont et de l'aval, c'est-à-dire déjà ça, on va y revenir, les formes même du livre imprimé qui sont évidemment complètement traversé par les formes numériques, et dans cet ensemble mouvant, savoir que la bascule qui s'instaure, y a pas moyen de ne pas la considérer autrement que comme à la fois irréversible et à la fois globale. C'est peut-être là-dessus, par contre, je vais prendre donc premier point sur ces trucs-là, c'est-à-dire la première chose, c'est comment on peut arriver à penser une mutation, non pas de façon rétrospective, mais quand on en est acteur en temps réel. Et c'est bien qu'évidemment, tout de suite, on est dans quelque chose d'impossible. Il n'y a pas une forme, par exemple, historique, prenez la Révolution française, pour laquelle on ne puisse pas regarder rétrospectivement comment se développe la pensée qui prend écart avec cet événement, qui le constitue comme récit, qui en fait histoire, etc., avec Michelet et tout ça. Et c'est jamais dans le simultané. Or, à la limite, c'est aussi premier truc, c'est-à-dire on pourrait être très indifférent à tout ça, dire ça concernera nos enfants, et en même temps ce qui nous alerte, c'est ça, c'est précisément qu'il s'agit avec le livre, là pour en même si on va quitter ce mot très vite de quelque chose qui concerne tellement centralement nos propres apprentissages, mais aussi le lieu essentiel de la transmission, que ce temps de décalage penser une mutation comme ça rétrospectivement moralement, on n'a pas le droit. Et ça a l'air de baratin peut-être comme ça, mais concrètement, comment c'est ? Bon, là, vous êtes bien, vous êtes sage et tout ça. Quand vous êtes en cours de fac, sans parler de quand on intervient comme ça dans un lycée ou autre, mais faut pas que je me perde trop dans les exemples tout de suite. Mais quand vous avez un groupe de 20, mots, voilà, truc la semaine dernière à Sciences Po, y en a un vraiment... Bon, ils ont tous leurs ordi ouverts. Donc, il y a des profs qui disent « Ok, pendant le cours... on ferme l'ordi. Il y a une autre solution aussi de dire l'école même, par exemple c'est le cas à Harvard et dans pas mal de campus aux US, pendant le cours on installe dans l'amphi la connexion, évidemment un droit parfaitement légitime et privé, là, c'est vrai que on peut, vous voyez, c'est tout de suite ces genres comment organiser même notre pensée quand chaque élément qu'on touche comme ça se développe instantanément en une pluralité de choses qu'emboîtage. Vous parlez de problèmes juridiques, là tout de suite on en est un. Est-ce que le droit à se connecter fait partie maintenant de ce qu'on exprime comme un droit légitime, y compris dans un lieu d'étude et tout ça, et comment par exemple dans l'univers du travail le droit d'utiliser les connexions informatiques pour son usage privé? Est-ce qu'on peut le séparer de l'usage professionnel? Bien sûr, on sait que non. Et en même temps, combien on a de... là, pour moi, on se rapproche là un petit peu du terrain quand même tout de suite central. C'est-à-dire, on peut pas... C'est un paradigme nouveau. Un type qui a les mains sur une machine, il joue pas aux cartes en même temps. Quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, quoi que ce soit que fasse sa tâche d'ordinateur, en même temps, il peut y avoir l'accès privé, ces tâches privées qui se rejoignent. Voilà, on va commencer à être dans le bazar qui m'intéresse. Donc, je vous dis ces trucs de Sciences Po. Donc, si on accepte comme ça de dire ces gamins, bon, j'en ai 18. Évidemment, je suis comme dans, c'est même plutôt bien. C'est plutôt des gamins intéressants, éveillés. Il y en a forcément 2 ou 3 sur 18 qui ont lu Les Fleurs du Mal. Il y en a forcément 1 ou 2 qui ont lu Rimbaud. On est complètement déjà largement au-dessus de ce qui se passe en fac et tout ça. C'est encore d'autres problèmes. Et si moi je dois leur prescrire, par exemple, Lautréamont ou Artaud. Le lieu, ce qui est pour eux leur lieu à la fois de socialisation, mais leur lieu en même temps intime de pratique du langage, l'endroit où se recroisent. Je suis en train un peu de brûler mes cartouches, parce que là je suis déjà dans mon point 3 bis, là, mais c'est quand même un petit peu ça aussi, c'est-à-dire le lieu où on peut éprouver le langage comme nécessaire, et éprouver le langage dans sa fondation, c'est-à-dire ce rapport à l'autre, et qui ne peut s'exercer comme rapport à l'autre, ou respecter comme chercher à comment on se conduit, comment on se comporte, comment on fabrique sa curiosité, que précisément parce que le langage, on l'exerce, et qu'on l'exerce pas seulement là, comme ça, dans cette oralité, mais qu'on l'exerce même dans un simple message Facebook. Et vous savez que Facebook, c'est encore typique là justement de ce bazar là. Mais pendant un quart d'heure, premier quart d'heure, j'ai droit à du bazar. Même là, comment voulez-vous raisonner de Facebook quand en ce moment tous les 15 jours on a des mises à jour extrêmement lourdes et qui sont aussi sémantiquement lourdes de conséquences. Par exemple, il y a encore 2 ou 3 mois sur Facebook, on avait ça t'intéresse pas, t'y es pas, on avait en anglais c'est quand vous mettiez le statut, la petite case où vous mettez d'inscrire votre statut, maintenant on considère que tout le monde sait ce que c'est qu'une case blanche ou mettre un statut, donc il n'y a plus rien. Ce qui est intéressant en tant que tel. Mais en anglais, il y avait « What's your mind on ?» En français, « Exprimez-vous ». Ben, on n'était pas dans la même injonction du tout. Là, par exemple, ils ont supprimé le bouton qui permet... donc, vous pouvez commenter, mais vous pouvez, il n'y a plus de bouton pour envoyer les commentaires. C'est juste la touche « Enter » de l'ordinateur. Ça veut dire un truc, c'est que quand vous faites un courrier, vous ne pouvez pas utiliser de paragraphe. Donc, je pense que c'est très conscient de leur part, une économie considérable de serveurs et tout ça... Un fractionnement aussi des données, puisque du coup un paragraphe bloc est envoyé, donc mais légitimement, moi, quand dans la correspondance privée avec un ami, ce qui est le fondement aussi de ce genre de plateforme, l'utilisation des paragraphes est un critère de langue, de rythme, d'organisation, de structuration. Je veux pas me perdre dans ces myriades de petites choses, mais en même temps avoir aussi en tête ce truc là, c'est-à-dire que là même où notre tâche c'est d'essayer de non pas parvenir à un des énoncés d'ordre général, ce serait beaucoup trop prétentieux, mais pouvoir justement est-ce qu'on a le temps même de capitaliser ou de thésauriser ce qui est cet usage de Facebook et qu'est-ce qui dérange? Ben non, parce que je vous dis, tous les 15 jours ces interface change complètement. Vous avez vu ces trucs, par exemple, ça rejoint là encore ces trucs juridiques, les opt-in, opt-out. Quelqu'un a le droit de vous identifier sur une photo et c'est à vous de refuser l'identification, etc., etc. Je me perds pas. Mais par exemple, pour mes gamins, je sais très bien que s'ils sont en classe et qu'ils sont chacun avec leur truc comme ça, qui les protège, ils vont avoir comme ça, évidemment, ce sur quoi ils vont être, c'est leurs emails ou leur Facebook, etc. Et que donc la relation, ma relation en tant que prof, elle est plus globalisante. L'autre jour, j'ai voulu en virer un, il me répond, monsieur, j'ai le droit de rester même si je fais autre chose. Bon, on a discuté après là-dessus. L'autre chose, évidemment, ça concernait cette utilisation-là. Et en même temps, le gamin, ce qui me répond après, mais mais vous, vous êtes bien capable de faire deux choses en même temps sur votre ordinateur. Et effectivement, on tombe tout de suite sur un autre paradigme, c'est-à-dire qu'a priori, un machin comme ça, j'ai pas le droit au multi-fenêtrage, donc il est monotâche, même si les autres tâches peuvent se faire en tâche de fond. Dans nos premiers ordinateurs, jusqu'à vers 2002-2004, on était effectivement là aussi monotâche, mais maintenant, c'est que sur un traitement de texte, on a ce genre de fonction. Mais pas que je perde de temps. Vous avez tout ça sur votre traitement de texte. Vous savez que vous avez tout un petit poussoir et tout d'un coup, l'ordinateur va lui-même proposer une page blanche qui sera débarrassée de toutes les autres trucs de menus, d'autres applications et tout ça. Et je connais personne, strictement personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui va lever le doigt dans la salle pour me démontrer le contraire, qui se serve de cette fonction-là. C'est-à-dire que en quelques années, on a parfaitement habitué notre mental à accepter que sur une surface comme ça active, on puisse avoir une fenêtre Twitter, une fenêtre mail, etc. Évidemment, je vais pas tout le temps mais même justement, j'ai des fonctions de notification et tout ça. Mais l'idée d'une surface de travail plurielle, on l'a tous intégrée dans nos modes de trucs et ça nous gêne pas pour la concentration essentielle. Voum, là, il faut que je fasse hyper gaffe à pas. Mais voyez, ces genres de mouvances, comment on peut arriver à penser à l'intérieur de ça. A priori, on s'en fiche complètement de tous ces trucs, sauf que le gamin, si je veux qu'il entre dans l'Autréamont, comment je vais lui faire que l'Autréamont revienne un outil de, pas de loisir, pas de plaisir, mais un outil d'intensité, en tout cas un outil de risque, et comment je peux arriver à le piéger dans l'Autréamont, comme je sais que dans l'expérience que je pouvais faire à l'orage avec le livre, ce qui définit un livre, c'est ça, c'est ce mouvement d'être happé, et que quand on sort du tunnel de l'autre côté, un travail s'est instauré qui passe par, précisément, pour la littérature, par la réminiscence du langage, du Lautréamont. On en a tous dans la tête du par cœur, et beau comme la rencontre... Beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, et tous ces trancs-là, la poésie doit être faite par tous et non par un, etc., etc. Tout ce travail qui s'instaure par la langue et qui nous permet, nous, d'avoir une échelle de langue qui n'est pas justement l'usage ordinaire, mais qui fait que cet usage-là, il est dans cette distanciation qui permet de d'en faire, comme ça, cet outil actif pour la construction de soi et le débordement de soi. Bon, mais là encore, surtout pas que j'entre dans toutes ces zones, j'ai pas d'autre lieu que ce qui est a priori le lieu de l'intimité. Le livre était notre lieu et notre objet ou notre territoire de l'intimité avec le langage. Si c'est transféré là, comment j'utilise ça pour recréer ce truc-là avec les mêmes objets? Je vais essayer d'avancer. Le temps que je voudrais prendre comme ça. Dans ce début, mais le temps file vachement vite. Pour penser cette mutation, l'obligation de et en même temps la chance. On n'avait pas besoin de la penser puisque le livre nous paraissait quelque chose de stable, alors qu'évidemment, et c'est une histoire très complexe, très rapide, très mouvante. Je prendrai quelques exemples comme ça, mais puisque a priori, nous par exemple, la dernière mutation importante du livre, disons, c'était l'apparition du livre de poche dans les années 60, et puis les modèles, par exemple romans, etc., c'était les modèles qui s'étaient stabilisés en gros vers Flaubert ou tout ça, avec l'énorme bousculade, ça, je prendrai un ou deux exemples de ça aussi, de la mutation du feuilleton et de la presse qui s'était installée là. A priori, on pouvait considérer que cet objet parfaitement ergonomique, parce qu'il intègre 300 ans d'art de la typo, parfaitement, extrêmement complexe, ça aussi j'espère prendre quelques exemples sur que ce soit bien les techniques de fabrication du papier, qu'aussi bien que ce qu'il y a dans l'encre et qui fait quel plaisir on a à sentir l'odeur du papier, etc., etc., tous ces machins-là, cet objet-là a une histoire et un accomplissement
évidemment, le paradoxe, c'est que ces espèces d'outils à côté sont effectivement des espèces de lourdes prothèses inefficaces. Celui-ci, je l'ai acheté il y a à peine plus de 6 mois, et le nouveau modèle qui vient de sortir, il est beaucoup plus léger. Il y a plein de choses dans l'air. Bon, vous voyez, c'est le paradoxe est là, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qui marche, il n'est pas du côté du nouveau. Le nouveau survient sans remplacer par quelque chose de mieux. Le point là où je voudrais m'ancrer là, dans la première demi-heure de patience, c'est que en même temps. Si on compare à l'histoire, aux histoires sociales, aux histoires esthétiques, ou à tout ce qu'on veut, les mutations de l'écrit sont en nombre évidemment beaucoup plus restreint. D'abord, même en tant que tel, à la limite, c'est presque même le statut de l'écrit qu'on doit réinterroger. Et là encore, je ne sais pas, pour une espèce de prescription de culture, se faire savant sur une historicité du surgissement de l'écrit et des mutations de l'écrit. Le seul truc là où je voudrais rester là dans cette heure de partage, c'est ça, c'est-à-dire que là où nous on est dans le présent, dans quelque chose d'imprédictible, non pas de mou mais de mouvant, et en même temps un changement de contexte. Oui, je vous dis, c'est pas si c'était les jeux vidéo, j'en ai rien à foutre. La question, c'est que ça touche précisément à des catégories d'héritage ou des catégories ce qui fonde comme ça nos usages de langue, donc précisément ce qui nous constitue comme communauté. Et ce truc-là, précisément, il n'y a pas possibilité de prendre écart, et la notion de présent, elle surgit immédiatement. Pourquoi ? Parce que, voilà, par exemple, il y a 10 jours, il y a eu un communiqué de Apple là, qui était merveilleux, là, avant leur lancement de iPad 2. Il disait simplement qu'il y avait eu une vague de suicides encore dans leurs usines chinoises. Donc, ce qu'il disait, c'est que Apple garantissait que dans les usines qui fabriquaient ces matériels, on respectait les normes internationales où on ne travaillait pas plus de 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Bon, tout d'un coup, en tant que tel, pour nous, avec notre tradition 1947, etc., on ouvre des yeux comme des soucoupes sur que ça devienne tout d'un coup une norme internationale dans un langage de communication d'entreprise, à partir de reliquats néocoloniaux comme ça, et qui tiennent quasiment de l'esclavage, mais c'est-à-dire qu'immédiatement dans ces endroits où on touche quelque chose d'élémentaire, c'est-à-dire envoyer un SMS à check Bruno, tu l'as reçu mon SMS. Ce truc-là qui est comme ça, derrière, il y a des enjeux comme ça qui sont évidemment lourdement politiques, qui surgissent, et que ces enjeux-là, pas possible, là encore, de passer à côté. Avec tout ça, je suis pas encore du côté de la lecture publique. Quand je disais, voilà, par exemple, mais vous voyez, c'est juste ce petit nœud qui pour moi est important dans une heure comme ça de partage, que raisonner comme ça sur le mouvant et le présent, on est évidemment dépendant de beaucoup trop de paramètres. Par contre, à réouvrir les modèles de ces choses comme ça plus anciennes, il y a une mine comme ça de trucs où tout d'un coup, on peut-être arriver à déplier cette micro-histoire comme ça du présent. Internet, ça a 30 ans. Pour pas mal d'entre nous, mon premier Atari 1040, c'était 1988. C'est quand même long. La première connexion Internet, c'est 1996. Tout d'un coup, ça fait 15 ans, etc., etc. C'est-à-dire que malgré tout, ce présent qui nous paraît comme ça quelque chose d'extrêmement brutal par la vitesse et la façon dont il ronge comme ça les usages les plus ordinaires de lecture, et ça évidemment ça fait que monter, c'est quand même malgré tout une micro-histoire. Je vais juste déplier comme ça quelques exemples. Le premier concernant ces trucs de surgissement de l'écrit, mais en même temps vous devez être vous beaucoup dans ces trucs là et je pas non plus manquerai tous ces trucs là, mais par exemple un exemple qui me touche, enfin qui me touche, bidon de dire ça, mais qui me semble signifier. A priori, sur la totalité des langues, un tiers seulement a considéré utile à un moment de se constituer comme langue écrite. Et c'est pas non plus une histoire qui est close, ou c'est une histoire où même, par exemple, combien de langues artificielles, c'est même pas le breton chimique ou ces trucs-là, mais je pensais, par exemple, les langues des Indiens d'Amérique du Nord, la plupart, c'est des constructions faites phonétiquement par les jésuites, et en même temps, comme ces trucs-là remontent au 17e, en tout cas, là, dans un peuple amérindienne là, du Québec, bon, un moment comme ça où effectivement une constitution de patrimoine a pu s'établir, tous ces modèles-là, évidemment, ça ne nous concerne pas directement, mais en même temps, réapprendre la fragilité même de la langue et des disparitions de langue, comme combien ça peut compter. Par exemple, aujourd'hui, bon, c'est le chinois qui est la langue première sur Internet, l'anglais qui est une langue véhiculaire qui régresse à toute allure, et en même temps, pour nous-mêmes dans nos échanges, la part véhiculaire de ces échanges, ou la part la plus technique de ces échanges, on l'exerce en anglais, donc on devient nous-mêmes les agents de la régionalisation de notre langue, alors que précisément, si on perd notre propre rapport à ce qui la constitue comme littérature, notre rapport à la langue cesse du même coup. C'est toujours cette espèce de puzzle à réouvrir. Et quelque part, si on s'alertait soi-même sur ce genre de déplacement qui n'est pas forcément ni insidieux, ni à refouler, ni tout ça, c'est multiples conséquences de ce truc. Comment on s'intériorise à l'intérieur de ça. Exemple qui m'ébaudit chaque fois que je le réouvre, c'est César dans ses commentaires de la guerre des Gaules. C'est le brave César, donc il fallait absolument qu'il envoie des lettres au Sénat de Rome, parce qu'il voulait garder sa place politique là-bas. Il faisait la guerre à l'extérieur que pour assurer sa présence politique à Rome. Et il y a un moment comme ça, c'est pas une guerre évidente, c'est bien souvent Gergovie et tout ça, les Romains perdent des batailles importantes, et une fois le César reste comme ça coincé en Auvergne pour des questions météorologiques, quoi. La guerre s'est attardée dans la mauvaise saison, il peut pas rentrer à Rome, il reste, et tout d'un coup dans les commentaires il y a une espèce de phrase toute bizarre, et puisque j'ai rien à faire et que je peux pas vous raconter mes batailles, je vais prendre un peu le temps pour vous parler des gens que je combats, ce qui lui serait jamais venu à l'idée auparavant. Et là il nous donne deux trucs. Le premier, un truc qu'on connaît aussi dans Polybe au temps d'Hannibal bien plus tôt, c'est que les Gaulois, c'est-à-dire confrontés à les Celtes, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, enfin tous ces peuplades qui l'affrontent, sont des types qui sont évidemment confrontés d'évidence à une technologie. En face d'eux, il y a des types avec des cuirasses, des boucliers et des pilums tendus à l'horizontale, vous avez tous lu Astérix, ça n'a rien de génial là-dedans. Et en même temps, ces types, eux, c'est la seule chose qu'ils connaissent au combat, c'est de se dénuder, se peindre le corps en bleu, et la fonction rituelle symbolique du bleu fait que si on se précipite en hurlant et en criant sur l'ennemi, il y a pas de problème, les pilums vont s'enfoncer dans les trois premiers, mais le quatrième il arrivera, il zigouillera l'autre, et les Romains effectivement perdent leur bataille. Donc César, il y a ce premier truc, c'est comment ça se fait que devant l'évidence technique, des gens qui raisonnent comme ça en fonction symbolique, être nu avec le corps peint en bleu, ne peuvent pas appréhender le saut technologique. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des petites mines où on se retrouve un peu sur nos histoires à nous. Le deuxième truc qui est plus important, qu'on comprend pas César, c'est de dire pourquoi ces types-là refusent l'écriture. Il est en train de les zigouiller, il les élimine par milliers. À un moment donné, qu'est-ce qui va rester, puisque donc c'est là où il nous renseigne des trucs, c'est-à-dire que les types qu'il a fait parmi les prisonniers ou les druides qu'il a attrapés, les chefs qu'il a attrapés, il sait parfaitement que, par exemple, la mémorisation du corpus celte, c'est les gamins qu'on choisit pour ce truc-là, ça demande 18 ans. 18 ans, des voyages initiatiques en Grande-Bretagne, etc. Au bout de ces 18 ans, celui qui a été initié, comme ça, est devenu le porteur corporellement, mentalement, on est dans Fahrenheit 451, de ce long corpus, mais évidemment, si on supprime la possibilité même matérielle pour ces peuplades de construire cette
cette lenteur comme ça de fabriquer ceux qui seront les qui auront mémorisé ce corpus. Le corpus cesse. Et effectivement, on a les sagas islandaises, mais de cette civilisation celte, on a quasiment rien, quelques mini bribes, etc. Juste ça, parce que cette notion même, comme ça, du rapport à l'écrit, bon, par exemple, ces objets-là, a priori, des trucs géniaux, par exemple, dans Marcel Proust, à un moment, ils sont 9000 abonnés au téléphone en France, en 1905, l'Opéra de Paris lance un truc où on peut écouter de chez soi en direct ce qui se passe à l'opéra. C'est la première de Péléas et Mélisande. Proust paye très cher pour voir ce truc-là. Or, le téléphone, il est dans le lieu des domestiques, il est dans le vestibule, là où le matin on va commander le poisson. Il y a un gros machin au mur et puis un autre cornet comme ça. Et donc, pendant tout le temps de Péléas et Mélisande, vous imaginez la qualité acoustique en 1905 de ce truc, il est forcé d'écouter ce machin-là comme ça avec le cornet a une oreille, et la lettre qui fait après, justement, sur qu'est-ce qu'il y aurait à penser comme ça dans la transmission en direct de la voix, qu'est-ce que ça change au récit, qu'est-ce que ça change à notre rapport à la littérature, à même le statut du texte par rapport à la musique qui n'a pas besoin de ces choses-là, et en même temps que le progrès, bon, il y a encore des progrès à faire, en tout cas pour le téléphone. Cet objet-là, en tout cas, potentiellement, a priori, n'était pas un objet pour transmettre du texte, qui devienne, non seulement après, avec les SMS et les machins, un objet où tout d'un coup le texte retrouve une autonomie par rapport à la voix, et y compris avec les ados, constitue des usages de langue qui sont pas à prendre non plus au hasard, à la légère, mais je veux pas m'attarder non plus là-dessus, et en même temps deviennent paradoxalement un outil de lecture, seul livre que j'ai amené aujourd'hui, parce qu'on est à Lyon, puis que c'est la ville où, de Rabelais, bah voilà, vous voyez, on a un livre de 1780, donc un livre extrêmement courant, qui n'a aucune valeur marchande spécifique ni rien. On est dans la même épaisseur, la même taille et la même surface lecture. Le seul paradigme qui change, c'est que sur celui-là je peux grossir la police, tandis que celui-là je pourrais essayer, j'y arriverai pas. Et enfin bon, après, si j'ai le temps, on reviendra à ce genre de choses. Il faut que j'avance. Ces mutations. Ouais, ça passe à une vitesse effrayante. C'est que, par exemple, des trucs complètement extraordinaires, c'est que les gens qui travaillent sur le cerveau, en ce moment, sur quoi ils travaillent? Ils travaillent sur le cerveau de la méduse, ou celui du lombric. Le lombric, c'est génial, il y a 8 neurones. C'est pas, et en même temps, qu'est-ce qu'on apprend? C'est, comment voulez-vous travailler sur cette espèce de, je pense, vous avez parlé des étudiants, vos copains étudiants en médecine sur le campus, la première fois qu'ils voient arriver sur une table d'urgence un motard, et puis qu'ils enlèvent le casque, et ce qu'ils comprennent pas en général, c'est pourquoi il y a de la mousse à raser qui sort des oreilles. C'est cette espèce de matière molle qu'on a là. Comment voulez-vous travailler là-dessus? En même temps, les méduses, c'est bien, il y a un neurone de 5 cm, donc c'est déjà beaucoup mieux que le nôtre, et puis il y en a 32 autour, et malgré tout, il y a des méduses qui arrivent à faire des apprentissages, y compris, par exemple, forme sombre en hauteur peut égaler tortue, donc je monte pas. Et donc, la méduse est capable de ce genre de mini-apprentissage comme ça. Nous, quelque part, il faut avoir cette humilité-là. Par exemple, je saute complètement mes trucs, mais pour moi, il y a trois critères, par exemple, qui méritent d'être sur lesquels on doit être comme ça extrêmement vigilant pour réouvrir notre attention justement à ce qui est comme ça l'objet qui n'est pas transparent. Je vous dis qu'il y a un dépôt magnifique de technique. Vous voyez cette dorure comme ça sur la tranche et puis tous ces trucs. Évidemment, c'est pareil dans un livre de poche et tout. La question, c'est que les 300 ans d'ergonomie qui font que le livre a évolué jusqu'à nous et se recompose comme ça en permanence, la tâche comme ça, la seule fonction de l'ergonomie, c'est précisément qu'on puisse oublier la médiation de l'objet technique pour être confronté comme ça à ce qui est simplement la mise en réflexion du langage intérieur et nous laisser libre dans cet écart de la pensée. Et là, même le mot loisir était, même dans son étymologie, va prendre comme ça toute son épaisseur et sa force. Comment arriver à redéplier cette espèce, je vous dis, d'évidence transparente?
les exemples, par exemple, c'est pour moi la reproductibilité. A priori, pour nous, mais je, surtout pas vous expliquer ça pour les bibliothèques, parce que c'est pas mon domaine. Mais quand j'en parle à d'autres, je parle beaucoup des bibliothèques, mais pas à vous. La question, c'est que, a priori, pour nous, un livre, c'est précisément quelque chose qui est reproductible. A priori, c'est quelque chose qui est justement suffisamment d'exemplaires pour que les lecteurs marchent comme ça. Ben ça, c'est pas évident déjà. Par exemple, pourquoi on n'a pas les pièces d'Eschyle et de Sophocle? Elles étaient jouées dans des lieux rituels. Il y a plein, évidemment, de choses des Grecs qui nous sont parvenues, et heureusement, et ceux qui n'étaient, mais les pièces de théâtre qui n'était pas faite, enfin, que j'aille, puis en même temps, je suis pas spécialiste, je sais qu'il y a des chartistes et tout, je vais pas me faire après, tu vas voir les trucs sur Twitter et tout ce que je vais prendre dans la gueule et tout. Alors, c'est pour ça que j'ai la trouille, mais il y en a qui se sentent concernés. Mais pas dire des conneries, et en même temps, à la limite, voilà, laissons les choses comme ça, mais les textes, quand Alexandrie exerçait son pouvoir politique sur la Grèce, pour symboliser ce pouvoir politique, il fallait prendre les textes qu'il y avait dans les temples. Les pièces d'Eschyle et de Sophocle, qui étaient des pièces jouées dans des lieux rituels, étaient déposées dans des temples. Les Grecs ont résisté 70 ans, finalement les textes ont été transférés, et après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, l'œuvre complète, au sens moderne du terme, d'Eschyle de Sophocle, évidemment, est parti. Ça n'empêche pas que des textes qui ne sont pas liés comme ça à des usages rituels, par exemple les textes de Platon, eux, aient pu nous parvenir comme ça beaucoup plus massivement. Et si des œuvres comme celle de Anaximandre, c'est génial, Anaximandre, pourquoi la Terre tient toute seule avec ce rien qui la tient, ou Pythagore, et nous parviennent par fragments, là c'est simplement parce que c'était sur des supports fragiles de l'histoire du papyrus, et que ces papyrus, évidemment, on n'est pas du tout sur le même stade statut de non-reproductibilité. Mais a priori, qu'un texte comme ça, dans son rapport fondateur à une civilisation, n'est inclus dans sa propre... si je fais en plus des subjonctifs, ça va encore plus déconner. Dans son existence de texte, la reproductibilité ne fait pas partie de... etc. Je laisse juste du bazar. C'est encore plus impressionnant, par exemple, pour les Mésopotamiens. Gilgamesh et tout ça, pour nous, c'est décisif. C'est-à-dire tout d'un coup, après des siècles où on voyait comme ça l'origine de nos fondations, des modes discursifs dans la Bible, découvrir que la Bible n'est qu'un élément, évidemment, dans un mode civilisationnel beaucoup plus large, beaucoup plus ancien. Dans Gilgamesh, vous avez aussi un déluge et tous ces trucs-là. Et comment on est tombé sur ces récits? Les Mésopotamiens, justement, parce que c'est là encore, en tant que texte comme ça, fondateur, des textes liés à la fondation de leur propre civilisation, ces textes étaient déposés dans les temples, là encore avec ce statut rituel, hors de question de les reproduire. Par contre, dans les ensibes locales, c'est-à-dire les écoles de scribes, le diplôme de scribe s'obtenait avec un exercice noble, c'est-à-dire il fallait faire sa preuve dans l'examen terminal qu'on était capable d'écrire quelques pages de ces textes fondateurs. Et donc quand on inventorie comme ça, ces vieilles villes sous leur couche de sable, ce qu'on arrive à reconnaître, c'est le lieu où étaient tout simplement parce qu'on gardait les traces des examens, on gardait les trucs pétés, tous les trucs brisés, tout ça, et on arrive à retrouver des fragments comme ça qui étaient les séances d'examen des scribes, et donc on a pu reconstituer ce Gilgamesh. Là encore, ces reproductibilités là, c'est pas je faut que je fasse très attention à pas trop me disperser, mais par exemple, ce qui est encore plus impressionnant comme ça dans ces tablettes, des éléments comme ça les plus impressionnants aussi, c'est que même la question même comme ça de la tablette comme lieu d'inscription est même indépendante du texte, c'est-à-dire qu'elle est non reproductible au point même qu'elle a pas besoin de texte dessus. Par exemple, les maisons des Mésopotamiens, donc qui sont de l'argile un petit peu mélangée à de la bouillie, on fait de la bouillasse et puis on fait sécher au soleil et puis on se construit sa maison pour justifier le droit de propriété. propriété ou justifier son rapport comme ça à l'endroit où on crée sa maison, en général on trouve dans les fondations un clou. C'est-à-dire, plante une espèce de, le fer était rare, on plante un clou en fer dans l'argile sur le désert, et voilà, on a symbolisé la propriété de la maison. Ce genre d'exemple là se décline un petit peu sur tous les genres de bâtiments. Dans les temples, il y a quoi? Il y a une brique. Les briques sont évidemment des choses pour la construction, sont des trucs séchés au soleil. Il y a aussi des tablettes d'écriture qui sont uniquement séchées au soleil, notamment les tablettes réutilisables. Ces tablettes, pour que si vous écrivez tout, par exemple, je sais pas combien de mails on a pu s'envoyer avec Christelle, mais un certain nombre, ces choses-là, a priori, je peux pas faire comme les Mésopotamiens, c'est-à-dire les prendre, les rouler en boule dans de la flotte, et puis je refabrique mes trucs, et puis voilà, ça repart pour une écriture. Et cette notion de réutilisation du support d'écriture avec la tablette, on a aussi plein de modèles, mais quand il s'agissait de textes pérennes, par exemple un traité politique ou quelque chose comme ça, la tablette était durcie au feu. Dans les fondations de chaque temple, dans une période environ un peu tard, ça commence pas à moins 3002, mais disons vers moins 2600, moins 2400, ça dure comme ça une espèce de truc, où le temple est signifié par le fait que dans une de ces fondations, une tablette vierge d'écriture est insérée dans la fondation. C'est-à-dire ce qui témoigne que le lieu de l'affectation rituelle du lieu, c'est qu'une parole comme ça transcendante, énoncée par un dieu, peut venir être, et elle est reproférée par les prêtres, mais ce qui incarne cette reprofération, c'est cette tablette-là. Ce genre de, pas développer ces trucs, mais qu'est-ce que c'est par exemple marrant quand ces types-là inventent ce qu'on dirait aujourd'hui les métadonnées, c'est-à-dire la tablette devient, là encore je passe au deuxième point, c'est-à-dire c'est pas la reproductibilité, mais c'est la transportabilité. C'est qu'a priori, quand on est, il y a encore une dizaine d'années, dans nos schémas comme ça de surgissement de l'écrit, on disait, ben vous voyez, on a plein de tablettes comptables. On les trouvait où d'ailleurs, ces tablettes justement qui n'étaient pas faites pour accumuler l'écrit. C'est-à-dire que même cette notion de l'écrit comme pérennité du texte qu'il installe, ça encore, c'est des schémas. Nous, qu'est-ce que c'est pas des obligations, mais on doit travailler sur nous-mêmes pour nous débarrasser de ce genre de choses comme ça qui sont non pas des préacquis, mais qui sont liés à notre usage permanent de cet outil comme ça de l'écrit sous toutes ses formes telles qu'il nous environne. Les tablettes les plus anciennes qu'on connaisse, bien avant, donc on voyait ces tablettes, je disais, on les trouvait, on les gardait pas. Donc qu'est-ce que faisaient ces types? Ils s'en servaient ensuite comme matériaux de construction, de remblayage, parce que c'est des tablettes sur lesquelles on peut pas faire de... Ah, il y en a qui disent oui, donc c'est soit j'embête tout le monde parce que vous savez tous ça par cœur, ou il y a que lui qui sait. Alors rien que pour nous deux, ce genre de truc, c'est ça qui est complètement émerveillant, quoi. C'est-à-dire, on construit des escaliers sur le bord de ces maisons à terrasse. Faut remblayer dessous. Les vieilles tablettes, on les foutait là-dedans pour que l'escalier s'effondre pas. Donc pour nous, on a des tas comme ça. On fait les poubelles, quoi. Mais vous voyez, la notion comme ça de pérennisation du texte n'est pas du tout comme ça un critère associé dans ce genre de truc. Donc je vous dis, les tablettes les plus anciennes, c'est les tablettes de divination du foie. C'est-à-dire, on doit prendre une grande décision, on égorge un enfant si on en a, une bestiole si c'est une décision moins importante, ou 30 enfants si on peut, etc. Et quand on ouvre aussitôt après, au soleil, ça dure pas très longtemps. Donc on coupe vite le foie, et après il peut y avoir des interprétations. Les interprétations, évidemment, on est dans un autre registre. Comme sur quoi va s'appuyer précisément l'interprétation. Donc les premières tablettes, c'est même pas des choses ni rectangulaires ni des choses planes. Le premier truc, si on malaxe, c'est une sphère, et cette sphère, on l'écrase, ça fait une espèce de vague cylindre. Dans ce vague cylindre, on établit la carte du foie, et la carte du foie, c'est des documents. J'ai donc la reproduction de l'image, quelque chose qui a commencé bien avant la reproduction de l'écrit. Le sceau, c'est-à-dire ce dont vous êtes porteur, parce que vous avez soit un sceptre ou une canne ou un machin comme ça, soit tout simplement le truc qu'on vous fiche au doigt et qui fait que si vous exercez l'autorité politique au nom du roi sur la ville étrangère, vous êtes capable d'imprimer ce truc-là quelque part. Là encore, on est dans cette transportabilité du signe. pas m'attarder sur ces trucs, mais par exemple, c'est très beau dans les tablettes, le moment où précisément quand le système social est suffisant pour que tout simplement on invente par exemple la correspondance privée, pas seulement le type qui au nom du roi emmène, se fait le porteur du message et l'emmène, mais que la société se développe suffisamment pour avoir ce truc. Votre correspondance, vous la montrez pas à tout le monde, donc la brique dure, on prend de la bouillasse molle, on recouvre de bouillasse molle, et là-dessus vous mettez l'adresse, et puis vous mettez par exemple, si c'est un texte politique, ce qu'il y a d'écrit sur la tablette. Et là, tout d'un coup, ce qui est fascinant, c'est que dans l'histoire de la tablette, on peut arriver aussi à voir le moment où arrive comme ça cette double épaisseur dans les niveaux du texte, avec ces trucs comme ça qui incluent adresse, référence, combien il y a de tablettes qui vont avec ce texte et tout ça. Et après, un autre usage qui est plus tardif, qui est encore plus émerveillant, c'est on trouve des tablettes donc où sur la couche d'argile molle est écrit le même texte qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement, par exemple, vous avez fait un traité, vous avez vendu votre maison, on a transféré un acte de propriété, on peut faire des faux. Non, pour que ce soit pas un faux, si vous réécrivez exactement le même texte, s'il y a contestation, vous cassez la coquille et dessous, il y a le texte qui n'a pas été touché. Donc, vous voyez ces usages-là, comme ça, dans cette complexité-là, comme ça, de l'authenticité de la copie. Par exemple, aujourd'hui, combien de fois par jour on signe on peut pas un mail ne peut pas vous authentifier. Faut que je zappe sur toutes ces machins-là. Mais ces trucs-là, comme ça, je vous dis, de cette transportabilité, question d'authentification et tout ça, simplement juste vous dire, ne vous privez pas d'aller voir ça, quoi. Si on va les voir dans cet état comme ça de surgissement, alors à ce moment-là, on les voit dans une histoire simple. Et dans cette histoire simple, ces traits d'histoire, on peut les retrouver, nous, ensuite, dans ce genre d'usage, qui là où il nous semble trop mouvant et nous déborde. Je continue et puis le temps passe, mais ce genre de choses, évidemment, c'est pas que sur la tablette, mais ce qui est important, c'est ça, par contre, là, ouais. Ce genre de mutation, en nombre restreint, ensuite, donc, il y a l'arrivée du papyrus. Puis, je veux pas me perdre dans tout ça, forcément, vous connaissez tous ces trucs. Mais en même temps, là encore, quelle complexité. C'est-à-dire, je peux te dire des trucs, je suis pas spécialiste de quoi que ce soit, si le papyrus commence à se généraliser vers moins 400, bizarrement la tablette elle va durer jusqu'à plus 200, tout simplement parce que par exemple justement le texte lui-même, d'ailleurs par exemple les textes qu'on connaît, vous savez, les textes écrits sur des stèles ou tous ces trucs là, le texte peut être lié, là aussi qu'est-ce que c'est important pour nous, même pour par exemple on va le voir là pour Gutenberg et autres, que le texte puisse être lié à un objet qui soit lui-même ancré dans un lieu particulier, c'est-à-dire que le texte exerce sa fonction symbolique sur le territoire, parce que matériellement, il n'est pas un texte comme ça transportable, mais qu'il a été comme ça construit sur le lieu même, le territoire même de son application. La tablette, tout simplement, je vous dis, encore 400 ans ou 500 ans après la généralisation du support papier, va servir encore pour par exemple les trucs de justice ou les édits comme ça, parce que tout simplement son autorité symbolique, voyez-nous que par exemple ou même pour un auteur, est-ce qu'un auteur peut avoir une bourse s'il n'est publié que sur le web? On est parfaitement dans un truc comme ça qui illustre concrètement la validation symbolique d'un texte associé à son support. Ça c'est ces choses là par exemple la notion de page, quel moment s'invente la page, c'est pas très important en tant que tel, simplement nous tout d'un coup on n'a plus de page, on parle de texte liquide et sur ce genre de machin, vous avez tous bricolé ces trucs, il suffit que j'appuie là et tchoc, je change ma taille de police et tout, et va devenir comme ça. Donc évidemment, cette notion comme ça de séquençage, mais le séquençage, là où justement, nous, dans notre formation, dans nos apprentissages, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans la mémorisation, dans la spatialisation de la mémorisation, dans la prise en compte la plus immédiate de ce qu'est une page, là, sans non plus...
accumuler toutes ces digressions, mais voyez, même tout se tient. C'est quoi lire? Vous savez qu'on a environ, là encore, je dirais quantitativement, je vais peut-être dire des conneries. Enfin, en gros, disons 5 millions de photons par seconde qui passent. C'est pas une quantité fixe. Ça dépend tout simplement de la lumière de l'objet. Ça encore, évidemment, c'est une banalité. Ça, je vais pas pouvoir le lire dans le noir. Donc, par exemple, la lecture, symboliquement, elle a toujours été associée à la lampe. Prenez même, regardez l'histoire de la peinture. Prenez l'étoile de la tour et tout ça. La présence des bougies dans les vanités. Tous ces trucs-là, et la notion même symbolique de lumière, même dans le statut dans la Bible. Et ça, voilà, c'est ce bazar qui compte. Peu importe qu'on perde dans votre année, je m'excuse du bazar, mais en même temps, je suis convaincu que c'est ce bazar qui compte. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller faire des dissertations, évidemment, sur ce rôle et ce statut symbolique de la lumière, l'association de la lumière à la pensée, penser à l'école, aller au philosophe des lumières et à tous ces machins-là, toutes ces allégories-là. Bon, mais tout d'un coup, ben voilà, si je veux lire le soir, ou si je veux lire dans le train couchette tranquillement, ben qu'est-ce que ce sera bien l'iPhone, parce que précisément, je peux avoir tout mon tout mon Montaigne, je sais pas tout ce que j'ai là-dedans, il y en a 30 gigas, et ou dans ce machin-là, eh bien tout d'un coup j'ai plus besoin de lampe pour lire. Vous voyez ce que je disais au départ, c'est-à-dire c'est des détails de rien et en tant que tel ils méritent pas qu'on s'y attarde. En même temps, dans l'accumulation et la profusion de ces détails, à chaque fois on touche comme ça des instances de symboles qui nous obligent à re-réviser comme ça ce truc-là. Donc là, ce que je disais, c'est qu'effectivement le nombre, les photons que vous recevez dans chaque œil, et en plus il y en a deux, par exemple. Il y a encore une quinzaine d'années, les gens de mon âge, on nous disait qu'on avait des nerfs optiques. Il y a l'œil, il y a le cerveau, puis entre les deux, ben, il y a le nerf optique. Ben, il y a 10 ans, tout d'un coup, on a supprimé le nerf optique. Ça fait drôle quand même. En plus, c'est la bibliothèque de Lyon-Pardieu que j'ai assisté à la première conf là-dessus. Mais bon, c'est truc merveilleux que le cerveau, je crois que c'est quand l'embryon a 3 semaines, donc il est même pas gros comme une phalange de bout de doigt, qui pousse 2 pédoncules, que ces 2 pédoncules vont se fixer à l'arrière de l'œil. Un œil, ça y a rien de plus con, les yeux de poisson, on a tous vu au marché, c'est la nature sait fabriquer des yeux de façon complètement rudimentaire. Le nôtre est pas très, il est pas différent, mais ce pédoncule qui se pousse comme ça rejoint ces espèces de trucs flasques et cons lymphatiques qui sont de l'œil de poisson et vont derrière se coller à l'arrière, et c'est eux-mêmes dans ces pédoncules qui vont générer les protéines qui vont spécialiser les cellules du fond de la rétine. Et là, tout d'un coup, évidemment, on obtient un truc tout ça, mais ça veut dire qu'ensuite, donc ce flux de photons qui vous arrive en continu, évidemment, il dépend de la luminosité ambiante. Si vous êtes ébloui, il y en a plein. Si vous n'avez pas à lire, il n'y en a pas assez. Et en même temps, vous savez très bien aussi que si vous regardez un Charlie Chaplin, ça va sautiller un petit peu parce qu'on faisait du 8 images secondes, on ne savait pas plus. Si vous faites comme ça une petite vidéo avec ce petit bousin, ils sont réglés à 25 images secondes, ce qui est complètement inutile. Mais on a des caméras extrêmement perfectionnées. Si vous avez tous vu ça aussi sur Internet, ces caméras qui vont filmer l'éclatement d'une goutte d'eau, tous ces machins-là, on peut travailler à, je crois, plusieurs milliers d'images par seconde, et évidemment les traiter et les ralentir. Mais nous, on est toujours aussi frustes, c'est-à-dire qu'au-delà de 10 images secondes, un film nous apparaît continu. Si des couleurs, par exemple, si on vous passe 40 diapositives par seconde, vous allez voir que du gris. Enfin, bon, c'est une banalité tout ça. Et en même temps, vous savez qu'il y a ces mystères, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on vous mette une espèce d'image de tigre à l'intérieur, et ben tiens, que vous appuierez sur un poussoir. C'est-à-dire que même dans le gris, en même temps, mentalement, on a ces trucs. Bon, je n'ai pas développé ces machins-là. Mais donc, comment ça marche, ces photons qui rentrent, cette analyse mentale comme ça, qui marche 10 fois par seconde, et qui fait que vous allez vous reconstruisez quelque chose qui ressemble à une phrase linéaire. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici, etc., etc. Cette construction mentale qui reconstitue une linéarité, effectivement, on a complètement gommé la discontinuité d'un phénomène. Si vous regardez les yeux de quelqu'un qui lit, l'œil balaye en gros comme un écran rétroactif, c'est-à-dire que l'œil balaye en permanence la totalité de surface, et dans ce balayage, les 10 images secondes font que vous allez reconstituer une image à peu près stable à partir de ces trucs. Pas développé sur ces conneries, c'est pas
Mais en même temps, je sais même plus à partir de quoi je vais en parler. Si, l'invention de la page. Comment on a inventé la page? Les Mésopotamiens, par exemple, ben voilà, ça, je devrais déjà beaucoup plus loin. Ce qui est fascinant, c'est que même quand leur tablette, pour se rationaliser, pour en faire plus, on les coupe en rectangle et on les accumule en rectangle. Même dans ces moments-là, les Mésopotamiens écrivent, et quand ils arrivent au bord de la, ils écrivent sur le bord vertical et ils écrivent sur l'arrière. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, je crois, c'est pas, ça commence à -3002, je crois que c'est seul vers -2600 que les Mésopotamiens ont appris que s'ils mettent le texte uniquement sur la face supérieure, quelque chose, le texte est plus efficace. Après, j'ai pas les mots pour mettre là, mais l'apprentissage que la ligne n'a pas à s'écrire comme ça sur le rebord et sur l'arrière, mais doit se cantonner sur cette première face, c'est des siècles d'apprentissage. Comment font les Égyptiens, qui eux n'ont pas d'argile, mais qui ont du papyrus à volonté? C'est que les feuilles de papyrus, c'est très complexe à fabriquer. C'est-à-dire, c'est des roseaux, donc c'est pas des gros machins. C'est des machins qui sont justement à peu près gros comme ça. On n'a pas inventé la poudre. Et que par contre, ce qu'ils savent faire, c'est l'affiner. Donc ils le rouissent avec des cailloux en trempant dans la flotte. Et ensuite, ils arrivent avec je sais plus quelle résine, ou c'est même pas des résines ou n'importe quelle, ou des gommes. Enfin ouais, en tout cas des choses comme ça. Soit animal, soit végétal, à coller comme ça, que s'ils prennent ces feuilles très amincies, avec une structure de fibres verticales, mais qu'ils en mettent 3 ou 4 avec en alternant structure horizontale et structure verticale, ils obtiennent un support qui, lui, a une durée de vie consistante, qui est solide, et il suffit de faire en sorte que la dernière couche, les fibres soient verticales, pour que, à ce moment-là, au lieu de graver comme ça, comme ils savaient le faire jusque-là, mais simplement de déposer comme ça ce truc, passer à l'encre ou passer au pigment, eh bien ils arrivent comme ça à faire que la trace se perde pas dans les fibres, mais justement comme ça c'est durci avec les résines et tout, ça reste en surface et ça dessine du langage. Donc, mais en même temps vous avez qu'un espace comme ça. Donc ils ont appris dès le départ à encoller leurs feuilles les unes à côté des autres, et un des plus anciens rouleaux qu'on connaisse, c'est la biographie de Ramsès II, et la vie de Ramsès II, elle fait 43 mètres de long. C'est peut-être pas la plus ancienne, mais en tout cas c'est la plus longue qu'on connaisse. Est-ce qu'on peut manipuler? Mais en même temps, je vous dis, avec tous ces trucs comme ça, là oui, la page c'est faite de force, parce que c'est cet espace-là séquencé que vous développez, et vous le séquencez dans une continuité. Ça ne viendrait pas aux Égyptiens l'idée que quelqu'un de grand comme Ramsès II, on puisse faire plusieurs rouleaux de sa vie. En même temps, par exemple, comment ça se traduira après pour les Romains? Vous voyez cette mutation-là, où là on est comme ça, et là encore, j'ai pas les dates exactes, mais entre le -100 et +200, en gros, tout d'un coup, on sait qu'un rouleau, pour être manipulable, il faut qu'il fasse 3 mètres au maximum. On sait que 3 mètres au maximum, ça peut correspondre, par exemple, précisément à la forme que constitue une tragédie, et puis bizarrement donc au temps anthropomorphe, qui est non pas le temps de lecture. Lire Lucrèce, c'est beaucoup plus long, lire l'Énéide, c'est extrêmement long, mais assister à une pièce de théâtre, c'est un espèce de temps qui correspond à un rouleau de 3 mètres, et il y a une espèce de normalisation qu'on voit s'effectuer comme ça chez les Romains. Et il y a ce truc qui est formidable aussi, c'est que le statut symbolique, donc c'est qu'on met le texte dans un très beau rouleau. Si c'est un texte précieux, le rouleau va être en cuir et en cuir peint, donc là encore il va y avoir tout de suite aussi un truc de couleur et tout. Et surtout, ce qu'ils inventent, les Romains, c'est ce bouchon. C'est-à-dire que là tout d'un coup, la bibliothèque, au lieu d'être l'apanage du temple, devient se diffuse dans la société civile. Cicéron a une bibliothèque qui est remarquable, Pline a une bibliothèque qui est remarquable, etc. Et tout d'un coup, les libraires, par exemple, vont pouvoir, la fonction va s'établir comme ça socialement.
seulement au moment comme ça où ces rouleaux ne deviennent plus comme ça une possession collective et donc associée au lieu soit rituel soit politique comme le Sénat de Rome avec les lettres de César, mais comme ça dans les bibliothèques de particuliers. Et donc les Romains vont inventer, ils classent les rouleaux comme ça à l'horizontale, avec par exemple vous avez ce truc très longtemps jusqu'à quasiment pas jusqu'à l'apparition de l'imprimerie, mais un petit peu avant, les livres seront stockés horizontalement. On pensera jamais qu'on puisse les mettre comme ça verticaux, mais je veux pas entrer dans toutes ces conneries. La question c'est ça, c'est-à-dire tout d'un coup, à quel moment, par exemple, ces fichus romains, le mot livre, il vient de là. Qu'est-ce que c'est le livre? Dans Lucrèce, il y a 5, 6, 7, Lucrèce avec le titre, et puis on diffuse le truc. Livre, c'est la fraction du rouleau de 3 mètres intégré, s'il fait oui, c'est que j'ai pas dit complètement une connerie, mais vous voyez, je vais pas développer trop tous ces trucs parce que on n'avait pas que ça à parler tous ensemble. Mais ce genre de choses, voilà, pour revenir comme ça toujours et sans se perdre à chaque fois, c'est que précisément, on avait migré un petit peu sur cette mutation complexe du surgissement du rouleau, la mutation du passage du rouleau au codex. D'où elle vient? Ça, vous avez ça dans Martial. C'est en Martial, ce qu'il dit, c'est, le rouleau, je peux pas l'emmener sur l'épaule, et les rouleaux sont fractionnés, je peux pas avoir 30 serviteurs qui emmènent mes rouleaux, mais le codex, je peux rassembler et parce que c'est rassemblé, je peux l'emmener avec moi, je peux le mettre dans ma poche. Et en même temps, il fallait des grosses poches, mais bon, ils étaient capables. Mais en tout cas, le surgissement du codex, tout d'un coup, chez Martial en tout cas, on a effectivement la preuve que c'est associé pour eux à ajouter. Le rouleau est bien mieux, comme un livre est bien mieux qu'un iPad, mais simplement, c'est transportable. Et en même temps, ce que disent le codex, il est pas forcément, il est en parchemin, donc c'est encore des histoires comme ça de techniques d'affinage et tous ces trucs. Il y a un truc de Martial qui est géant, comme ça, c'est Pascal Quignard là, qui relève ça dans ses petits traités, c'est en folio, c'est un truc, un bouquin. Pourtant, le Quignard, il n'est pas doué à l'ordinateur, mais c'est ça, en plus, c'était écrit avant. Mais ces petits traités, c'est magnifique sur ce genre d'approche, comme ça. Il y a un truc de Martial, c'est les Romains, donc quand on a fini de lire le rouleau, faut le ranger, faut le replier. Et donc, pour qu'il soit bien tendu, qu'il rentre dans son étui, qu'est-ce qu'ils font? Ils se l'appuient sur le menton, comme ça. Et les premiers trucs, quand le codex arrive, la réaction des Romains, c'est qu'est-ce que c'est que ces textes qui ne sont pas salis du menton? Là encore, vous voyez tous ces schémas comme ça aussi de résistance à un surgissement, comme on peut les travailler, etc., etc. Évidemment, après, c'est toutes les périodes d'imprimerie et autres. Je vais zapper parce que c'est... ça nous concerne pas. Je vais prendre juste un exemple quand même qui m'intéresse pas mal en ce moment. M'intéresse. Grande mutation pour moi. En laissant tomber tous ces trucs, je vous dis de période en même temps, qu'est-ce que c'est fascinant là encore, mais ça vous avez tous bouquiné ce truc de Lucien Febvre, l'apparition du livre, un bouquin des années 50. On peut pas possible de faire l'économie de ce truc là aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire se rendre compte. Un autre point là justement que j'avais mis là dans mon plan que j'ai pas suivi, c'est donc il y a ce truc de reproductibilité, de transportabilité. Les deux autres points, c'est que effectivement à chaque mutation, c'est l'accès au nouveau corpus. C'est-à-dire, et là, pour moi, ça nous concerne aussi directement dans le numérique. C'est-à-dire que on a comme ça quatre mutations majeures, et puis cinq ou six, si on compte un petit peu les variations à l'intérieur de ça. Homer, c'est pas compliqué. On fixe justement quand le papyrus arrive comme ça, donc vers moins 800, parce que c'était pas là, ça marche chez les Grecs, même si les Mésopotamiens sont encore largement dans leurs tablettes. Il y a un corpus non écrit, qui est un corpus a priori collectif, un corpus qui a priori plutôt, qui désigne plutôt qu'il est porté par les aveugles qui vont de village en village, parce que leur faculté de mémorisation est plus grande. Donc on a un corpus qui s'est stabilisé précisément sur ses qualités de mémorisation et de... d'organisation
Bon, vous m'avez compris. Et ce corpus-là, bon, on se stabilise, prend le nom collectif d'Homère. Bon, mais qu'est-ce qui se passe après? Là encore, je vous dis, c'est, évidemment, c'est pas des choses, c'est des zones comme ça qu'il faut arranger. Mais bon, le corpus, par exemple, les Hérodote, et bien plus tard, bon, tout est plus tard, qu'est tout c'est plus tard qu'on est longtemps, longtemps après. Mais on a comme ça l'irruption d'un support. Le support se stabilise, établit une forme ben justement de multiplication dans sa forme marchande, de industrielle et tout ça. Ben à chaque fois, c'est le corpus qui rentre là-dedans. Ce qui est fascinant, peut-être rétrospectivement, c'est en quoi, pour nous, dans chacune de ces mutations, les moments, ben Homer en est un bon exemple, mais Hérodote, etc. aussi, c'est que précisément dans ces périodes de mutation, le moment où un corpus qui n'était pas prévu pour passer à l'écrit rend, parce que sa réalisation concrète devient possible, devient œuvre comme ça, ben, ces moments-là, qui sont des pics d'intensité dans l'histoire des formes et l'histoire des corpus, qui correspondent, qui sont complètement juxtaposés précisément à ces histoires de mutations comme ça de support. Ça veut dire aussi que là encore aujourd'hui, nous, bon, c'est dans toutes ces discussions, par exemple. Mais bon, non, pas de digression. Mais qu'est-ce que c'est important de justement la trouille, elle est là. La trouille, qu'est-ce qu'on devient si les livres disparaissent? Mais précisément, c'est qu'on voit pas les livres qui ont disparu. C'est-à-dire, si vous allez à la BN, je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en a quelques-uns qui finiront là-dedans. Bon, et passerez la moitié de votre vie à les traîner dans les cinquièmes sous-sols, là, parce que c'est les plus merveilleux. Et puis comme ça, on vous fout la paix pendant ce temps-là. C'est avec tous ces magnifiques la BN, avec tous ces cartons qui sont pas encore inventoriés, tous ces legs, ce bordel qu'il y a comme ça. Dans... Plus on descend dans les sous-sols, c'est comme dans Lovecraft, plus on est dans les choses. Ouais, prenez par exemple la conception du ciel au 15e siècle. Est-ce que le ciel, c'est comme Aristote l'a dit, ça doit être forcément lumineux là. Pourquoi il fait pourquoi la nuit est noire? Une question que les physiciens d'aujourd'hui est toujours active pour eux. La nuit est noire parce que ben il y a le divin au-delà, mais le divin, lui, bon, faut bien qu'il dorme comme les autres, donc c'est blanc de toute façon de l'autre côté. Et puis bon, ben les étoiles, c'est quoi? C'est que il a fait des petits trous comme ça, il nous surveille, c'est son boulot, non? Donc voilà. Et puis en même temps, pourquoi on voit de plus en plus d'étoiles à mesure qu'on arrive à polir des bouts de verre? Bah, c'est normal, parce qu'on est de plus en plus nombreux à surveiller, puis on fait de plus en plus de bêtises. Donc les étoiles, c'est des trous dans la voûte obscure du ciel matériel. Il y en a d'autres qui disent non, parce que en fait c'est des conneries, c'est des enfantillages. Le dieu, il a pas besoin de faire tout ça. Par contre, maintenant qu'on voyage, on sait qu'on a appris à reconnaître que les étoiles, elles sont là pour nous guider et tout ça. Donc il a installé des petits trucs suspendus à la voûte pour nous apprendre justement à les déchiffrer, à faire nos horoscopes, à tout ça, et puis ça bouge et tout ça. Et on a des, et puis il y en a d'autres encore plus malins, ils disent regardez, il y a le feu, quand vous faites une flamme, la flamme elle monte, donc c'est normal, quand elle arrive au plafond, elle reste, c'est pour ça qu'on voit toujours plus de lumière là-haut, etc., etc. C'est pareil pour la question de la femme. Est-ce que la femme, c'est un être humain comme l'homme? La BN, je crois qu'on recense environ 550 ou 600 bouquins là-dessus, et c'est pas la querelle des femmes. On appelle ça la querelle des femmes, mais c'est pas autant de Rabelais, c'est bien avant le tiers-livre, c'est une époque même avant l'imprimerie. Mais ces continents d'œuvres mortes, ces continents de savoirs morts, évidemment, on les voit pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça ait disparu? C'est raisonner comme ça à l'intérieur du livre en tant que comme ça histoire qui s'efface elle-même. Et ça fait du bien, parce que ça nous décomplexe un peu sur le fait de qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qui mérite de survivre ou qu'est-ce qui ne le mérite pas, tout simplement, dans la mesure où une énorme part de la production marchande ne témoigne absolument pas de cette conquête de savoir ou de curiosité, etc., etc. Cette chose-là, quand même, ça me semblait... dans ces trucs, par exemple, qui sont très curieux aussi, par exemple, dans tous nos livres modernes, ou même par exemple les polices utilisées, y compris pour les versions électroniques du Monde ou tous ces machins-là, vous savez que celle dont dérive, il y a le Times, un New Roman, mais qui a une histoire un peu similaire, mais on utilise énormément le Garamond internationalement, même sur vos putains de Mac et tous ces machins-là. Vous savez que vous avez tout, enfin le Garamond fait partie des polices embarquées naturellement. On a une police extrêmement moderne, susceptible de plein de variations et de retravaille à l'intérieur, qui c'était Garamond, c'était un mec de chez vous, il s'appelait Garamond T, non pas Garamond D, et qui avait pour faire comme ça ses premières caractères d'imprimerie. L'enjeu qu'ils avaient, c'était faire en sorte qu'un livre imprimé ne puisse pas être ne se reconnaître de l'excellence, et l'excellence c'était le livre recopié à la main, le livre manuscrit. Et vous savez que l'industrie de la copie manuscrite, bon, elle n'était pas à Lyon à cette époque-là, elle était beaucoup plus à Venise et puis en Allemagne du Sud, lieu principal de reproduction des techniques des images, ce qui est aussi toute une histoire à redéplier comme ça de près. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire cette preuve comme ça que l'imprimé pouvait être ne pas se reconnaître de ce qui se redupliquait comme ça à la main, Garamond s'était servi de l'écriture manuscrite de celui qui était le calligraphe du roi, c'est-à-dire tout simplement celui qui était considéré en France, enfin ce que le mot France était bizarre à l'époque, en tout cas pas du tout hexagonal, celui qui était considéré avoir l'écriture manuscrite la plus lisible, et en tant que tel était celui qui établissait donc le courrier, les décrets et tous ces machins-là. Ce type s'appelait Ange Vernès. Et bien aujourd'hui le paradoxe, c'est que même sur nos bécanes comme ça, quand on affiche un Garamond, on utilise la trace fossile de quelqu'un qui était un calligraphe du temps de François Ier. Ce genre de choses, c'est des... Bon, il n'y a pas non plus à insister trop et tout ça, mais ça fait partie de ce genre de paysage. J'ai plein d'autres exemples comme ça, et puis c'est pas très très grave. Mais dans ce passage comme ça à l'imprimerie, combien de fois par exemple vous avez encore l'invention de Gutenberg, ou même ce matin mon ami Benoît là, Gutenberg Project, Gutenberg Project, ils ont pas révisé leur truc, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait Gutenberg, c'est pas rien ce type, il est parti d'Allemagne, il a été faire un apprentissage en Hollande, et puis les Hollandais, qui étaient un pays de mer, donc un pays ouvert aussi à l'Asie, même si là ça nous déborde, mais en même temps ils avaient déjà ces relations avec Java, Sumatra, etc. Ces Hollandais avaient justement des techniques de reproduction des bois gravés beaucoup plus complexes que celles qui avaient lieu comme ça pour l'Allemagne, mais pour les images, et en même temps pour ces en tout cas qui n'étaient pas appliquées au texte. On a des traces, vous savez, mais juste comme ça, des bouts de pages, des fragments de pages que les Hollandais dans cette époque-là vers 1480, savait déjà reproduire une page de texte de façon imprimée. Gutenberg importe cet usage en Allemagne à la suite comme ça de ses apprentissages hollandais, et lui le perfectionne. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui le premier laisse environ, je crois, 160 bibles. Donc il y en a 40 sur peau de veau, et puis 120 sur papier, mais qui sont des objets, vous savez, qui sont justement qui pèsent 115-150 kilos au moins. Je sais pas, il y a Dijon par exemple, où il y en a quelques-unes comme ça, je me rappelle plus s'il y en a une de Gutenberg à Dijon, mais en tout cas on en a de cette époque-là. Donc des objets extrêmement lourds et qui physiquement après étaient installés dans le lieu commanditaire et qui ne bougeaient plus de évidemment ce lieu, ce truc comme ça. Ça aussi c'est encore des exemples plein là-dedans. Qu'est-ce que fait Aldo Manuccio, lui c'est quelqu'un qui est à Venise, donc qui dit le lieu comme ça où 12 000 personnes sont occupées à reproduire comme ça des tas de textes séculiers, fabriquer des objets manuscrits mais qui sont des objets comme ça de reproduction marchande complètement banalisés. Ce qu'il dit, c'est que s'il imprime comme ça à 1000 exemplaires une idée, on peut brûler l'auteur, évidemment l'idée on peut plus l'annihiler. Et lui pour ça, en fait, sa technique, c'est que bon, Venise là justement c'est un endroit qui est lié directement à l'Asie, les Coréens ont développé la technique chinoise d'impression sur des motifs sur soie et utilisent des tringles en acier, où là ils savent, les Coréens ont été les premiers a priori à inventer des caractères montés sur des tringles, qui donc avec cette légèreté, etc. Donc notre tradition moderne de l'imprimerie, elle vient complètement de Venise via Aldo Manuccio et pas du tout de l'invention de Gutenberg qui a été strictement limitée à ses bibles. Mais en même temps, là, nous aussi, même par exemple, on m'a dit choses après sur quoi qui m'émerveille. On en parlera tout à l'heure là avec mes volontaires. Là, mais pourquoi les bibliothèques ne pratiquent pas l'accès à distance à leurs ressources? C'est des choses qui sembleraient aberrantes dans le domaine de la médecine ou du droit. Si vous regardez une ressource numérique concernant la chirurgie du cerveau, c'est formidable. Vous voyez où la chirurgie, mais ouais, la chirurgie du cerveau, chirurgie pointue comme ça, ces trucs-là. Vous regardez ça dans n'importe quel BU, même ici, je suppose. Et puis vous voyez que toutes les 40-50 secondes, l'article machin a été réactualisé. Ça veut dire aussi que l'auteur est collectif. Il n'y a plus de statut personnalisé de l'auteur, alors qu'a priori, on est comme ça dans une des lieux les plus décisifs de l'invention humaine ou de ce qui nous fonde comme ça dans notre aventure ou notre curiosité. Sciences Po, j'ai ma carte comme ça pour accéder aux ressources. J'ai accès à 15 000 revues en ligne. Si j'entre littérature, j'ai 15 ressources. Et sur les 15 ressources, j'ai une ressource en français, les études balzaciennes. Donc là, bon, ça c'est une autre problématique. La problématique de départ, donc cet accès à distance, on sait le manipuler, l'établir. Là, je peux me connecter même tout de suite là avec mon petit mot de passe KJEF là que j'ai pour la journée, mais je peux très bien accéder à ce truc à distance. Pour la littérature, je crois que sur je connais Rennes Champs Libre, l'Institut français de Londres, la BNF et la ville de La Roche-sur-Yon à cause d'un copain qui s'appelle Michel Fauchier, qui sont les seules bibliothèques territoriales que je connaisse. Limoges, mais qui est pas abonné chez nous. Non, c'est Grenoble qui est pas abonné, mais Limoges. Donc il y a cinq bibliothèques en France qui pratiquent l'accès à distance. Au Québec, ça c'est acquis. Comme si tout d'un coup, il y avait peur que si on permet cet accès-là pour les ressources qui sont pas de science mais de littérature, est-ce qu'on va perdre le lieu? Est-ce qu'on aura moins de plaisir à venir au lieu? Moins de légitimité à venir au lieu? Qu'est-ce qu'on vient faire dans une bibliothèque si c'est pas pour emprunter tous ces trucs-là? Bon, ça c'est de la zizouille, c'est vos histoires, c'est pas les miennes. Mais en même temps, par exemple, cette dimension-là, regardez la notion même de reproductibilité. Au départ, c'est les livres qui étaient dans les monastères, l'original, donc était attaché par une chaîne. Donc la notion comme ça de livres attachés au lieu, c'est pas des choses qui sont quand on manipule une idée comme ça, on manipule une idée qui date en gros du 3e siècle jusqu'à l'apparition de l'imprimerie au 16e. Et vous savez que par exemple, ce qu'on appelle l'exemplaire, et qu'est-ce que c'est que d'avoir un fonctionnement exemplaire, c'est le mot qui vient de là aussi, c'était la copie manuscrite donc de l'original qu'on ne touchait pas pour ne pas l'abîmer, ou en tout cas le livre donc est complètement sanctifié. Il y a que dans les occasions rituelles qu'on peut venir vérifier. L'exemplaire, lui, est divisé en cahiers, ce qui fait que quand les gens qui viennent recopier, d'abord on ne transfère pas le texte vers celui qui va l'utiliser et le lire, c'est celui qui veut l'utiliser et le lire qui fait le chemin pour ici, et comme ils sont plusieurs, ils vont pouvoir se relayer, puisque les 4 ou 5 ou 12 cahiers, mais il y a qu'un seul exemplaire, c'est-à-dire que la version qui clone l'original, on n'y touche pas. La version qui clone l'original, on l'a divisée comme ça en 12 fragments, ce qui fait que 12 copistes vont pouvoir travailler simultanément. Et là encore, c'est des tout petits exemples, en tant que tels, ils valent rien. Mais en même temps, si on se réouvre, nous, à cette grammaire-là, justement même de la duplication et des mouvements, de la dissymétrie comme ça, de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on trouve? Je vais zapper un peu pour arriver, je sais pas où, puis on va parler ensemble. Ouais, j'avais des trucs dans les exemples comme ça que... Oh là là, ouais. Il y a un truc comme qui pour moi est aussi un truc vachement, enfin qui résonne comme ça, c'est peut-être juste ça, c'est le truc de, tu sais, de Baudelaire qui s'appelle le peintre de la vie moderne. Je sais pas si Milnet là-dedans, c'est sur un type qui s'appelle Constantin Guy. Et il y a un Baudelaire, c'est pas pas, allons à l'essentiel. Ce Constantin Guy est un gars qui dessine c'est un dessinateur. Donc Baudelaire, là, il travaille sur c'est un texte sur la vitesse. Donc ce type est capable, dans une scène de guerre en Crimée en 1845, de faire comme ça à la main des dessins très forts sur le motif, où il va représenter un type qui prend une balle, des soldats près d'un bivouac, des scènes comme ça, les gens dans la ville, et tout, bon, mais en même temps, donc
ce qui atteste pour Baudelaire la vitesse, c'est ce qui permet justement d'attester du temps réel. C'est-à-dire que la scène dans le réel, on la fixe comme ça à l'époque, une photographie, ça existe, mais il faut 3 heures pour la construire, la faire, etc. Et la plaque de verre, elle n'est pas reproductible, ou le tirage sur celle d'argent et tout ça, évidemment, Nadar et tout, en même temps, ils savent le faire, mais ça permet pas d'aller travailler comme ça sur un moment historique. Et il y a un passage comme ça dans ce peintre de la vie moderne qui est extraordinaire, parce que les postes à l'époque donc de Crimée à Londres, où le Constantin Guy s'est installé pour ça, c'est le lieu d'invention de la presse, les postes sont suffisamment comme ça perfectionnés pour qu'en 9 ou 11 jours, sans arrêter, comme ça en continu, le dessin fait sur la scène de guerre arrive dans le journal et soit publié dans la presse. Le truc de Baudelaire, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui n'appartient pas à notre univers sensible, mais a évidemment des implications extrêmement lourdes sur la communauté, la guerre exercée en notre nom, et toutes ces belles choses qui continuent toujours aujourd'hui, en simultané, elle m'est perceptible. Et pour Baudelaire, les 11 jours, c'est du simultané. Nous, évidemment, ce curseur, on l'a redéplié entre le tsunami de 2006 et puis c'est le tremblement de terre du Japon et l'attente de la vague. Cette loupe sur le simultané, on n'a pas cessé de la développer. Mais Baudelaire, pour lui, c'est ce truc qui est là. C'est-à-dire, à ce moment, dans ce moment-là, cette image qui a été faite comme ça et qui est transmise par le journal, ce dont elle atteste pour le réel, justement, ça peut pas être mis en cause, mais précisément, elle m'informe d'une réalité qui ne m'est pas perceptible, sans que pour autant il y ait besoin du récit. C'est-à-dire que l'image se suffit à elle-même, et que ce que la tâche ancestrale du langage, comme ça, qui fonde comme ça le truc de la littérature, c'est-à-dire de reprendre par le langage la représentation elle-même, tout d'un coup, ce truc-là est court-circuité, j'en ai plus besoin. Ce qui m'intéresse juste dans ce genre de trucs, c'est que là encore, il n'y a jamais pu y avoir à quelconque époque comme ça de production de texte pour Rabelais, ce serait infini à redéplier aussi comme ça en détail, indépendamment comme ça de ces curiosités au dehors. Je vais commencer à bafouiller, donc il est temps que je fasse gaffe à tous ces trucs. Quand même, dans 5 minutes, en fait j'arrive presque à la moitié de ce que j'avais prévu de dire. Que dans ce qu'on interroge, justement, que ce soit pas, que ce soit jamais comme ça, uniquement le support et le texte comme ça considéré comme quelque chose de fixe et de stable, mais qu'on ait à faire en permanence le chemin inverse. C'est-à-dire que si on interroge, je vais penser à toutes ces réflexions qu'on entend en permanence sur le foutoir d'Internet, sur tous ces blogs qui disent tout et n'importe quoi, comme si dans un kiosque de gare et les bouquins qu'on trouve dans un kiosque de gare, il n'y avait pas aussi du tout et n'importe quoi, ou que le langage ou la conversation dans la rue, etc. Et en même temps, combien on a d'œuvres. Excusez-moi, que je me reprenne. Tout petits exemples comme ça, juste aussi comme ça, sera beaucoup mieux que d'essayer de. Maupassant. Ma fille passe le bac français, ce qui n'est pas un élément très important concernant la conférence, mais au programme, elle a Bellamy. Bellamy, ça doit revenir au bac français une fois tous les 5 ans, en alternance avec les confessions de Rousseau, j'ai rien contre, c'est du beau boulot et tout, mais en même temps, si c'est pas une forme morte par excellence, c'est-à-dire Balzac et Rabelais, Balzac et Flaubert, puis Flaubert invente comme ça un canevas qui s'appelle pas roman, chez Balzac ça s'appelle études sociales, ou études de la vie privée, chez Flaubert, Madame
Bovary, Stendhal appelle le rouge et le noir mœurs, et Flaubert appelle Madame de Bovary mœurs de province. Je vous assure que vous publieriez un livre en septembre avec marqué dessus mœurs de province, ce serait votre destin en librairie, serait vite réglé. Donc Maupassant reprend cette forme, il veut prouver que symboliquement, lui qui est plus ou moins apparenté assez à distance de Flaubert, il est capable de devenir écrivain autant que Zola, etc. Donc il fabrique un roman, et en même temps, vous savez tous, enfin bon, vous avez tous goût à ces nouvelles de Maupassant, et en même temps, c'est que les nouvelles de Maupassant, on n'a même pas en France une édition, s'il y en a une qui est à peu près, mais qui est difficilement même accessible, à l'écriture chronologique de Maupassant. C'est-à-dire quelqu'un qui, tous les soirs, parce qu'il avait des gros besoins, parce qu'en plus, il a un frère qui est en train de mourir de dérèglement nerveux, et il sait très bien que lui, enfin, il va mourir à 46 ans dans des conditions complètement abjectes, comme ça, de syphilis et tout ça, donc il sait très bien ce qu'il attend. De 10h du soir à minuit, il écrit comme ça un texte qu'à minuit, et c'est ça aussi qui lui rapporte l'essentiel de ses revenus, un coursier du Gaulois ou du Temps ou de ses autres journaux vient rechercher chez lui, et c'est publié le matin sans relecture. En général, ces séquences-là, elles sont directement comme ça, soit c'est des souvenirs de voyage, soit c'est des trucs qui sont observés le truc, c'est-à-dire qu'au moment où il écrit, il ne sait pas ce qu'il va écrire. En tout cas, il y a ce phénomène comme ça d'écrire. Et dans cette chose-là, s'il travaille comme ça sur un souvenir de voyage, s'il travaille sur une conversation entendue, eh bien, tous les 2-3 jours, ce truc-là va prendre la forme d'une fiction. Les fictions, là encore, après, justement, les choses qui tiennent au réel, elles ne sont pas reprises dans un deuxième ensemble. Par contre, quand c'est des fictions, lui-même compose des recueils de nouvelles, les farces normandes, les machins comme ça, tous ces trucs. Et puis, on a comme ça donc un corpus imprimé qui se crée avec les recueils de nouvelles et qui lui-même enlève le côté quotidien et enlève les registres qui ne sont pas le passage à la fiction. Et en même temps, pour nous aujourd'hui, cet ensemble qui est constitué par les fictions brèves de Maupassant, pour nous, enfin bon, à moins que quelqu'un dans la salle lève la main pour dire le contraire, mais évidemment, c'est notre rapport premier à Maupassant et pas du tout ces romans qu'on continue d'utiliser jusqu'à plus soif dans l'enseignement. Mais qu'est-ce que c'est la publication, nous, ces outils-là? Ça veut dire que cette publication comme ça, qui est au jour le jour, on est capable de l'honorer, d'entrer dans le chantier de l'auteur, indépendamment comme ça de ce filtre commercial qui, par la nécessité d'objets imprimés, produit lui-même ses hiérarchies et va mettre romans, nouvelles, etc. C'est des trucs qui sont pas, là encore, par... Parlons ensemble, excusez-moi. J'ai plein d'autres trucs et d'autres trucs et d'autres trucs. Il n'y a pas à conclure, évidemment, et puis surtout pas après ces espèces d'enfer, mais en même temps, comment faire autrement? C'est-à-dire, pas faire autrement que réouvrir la boîte à chaque endroit. Et cette boîte, quand on la rouvre, ça fait un barouf énorme. C'est l'exemple pour Maupassant, c'est aussi pour la même chose que Kafka. Kafka, ça nous paraît quelqu'un complètement regardé, même où les Fleurs du Mal, est-ce que ça existe? Est-ce que Les Fleurs du Mal, c'est un livre? Non. Il n'y a jamais eu de livre qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Il y a eu une édition faite trop tôt, une édition faite par Baudelaire, mais qui compte pas les derniers poèmes. Il y a une deuxième édition qui sont ces trucs-là, moins ceux qui ont été censurés. Ensuite, il y a un truc qui est les derniers poèmes, moins Les Fleurs du Mal, etc. Et le chantier ouvert Les Fleurs du Mal, c'est pas un livre. Des exemples comme ça aussi qui nous incitent à faire attention. Par exemple, regarder René Char. Type, c'est cette grande barre qui fait en résistance, qui exerce des responsabilités. Il y a un moment comme ça, c'est donc ils sont clandestins, nomades. Il a pas le moindre support sur lui que des feuilles libres, parce qu'il est feuillet d'hypnose. L'expression vient là, ces feuilles qui sont dans la poche parce qu'il y a même pas moyen d'archiver ou stocker ou même accumuler dans un écrit. C'est en même temps, c'est là où il y a justement cette contrainte aussi de la composition mentale, la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil. comment vivre sans inconnu devant soi? Comment, quand on n'a pas justement de quoi écrire sur soi, on s'astreint comme ça à cette composition mentale qui fait que le dépôt va être minimum. Il y a une scène dans Fureur et Mystère, il a un groupe ils sont 14 et ils ont tous un fusil. En bas, il y a 8 Allemands qui sont en train de zigouiller un de leurs petits copains, le type est attaché, les yeux machin. Le gars en même temps, c'est un poète là, excusez-moi, j'ai plus le nom, un gars qui a 26 ans mais qui a déjà publié des livres de poèmes, qui est très proche de Char, ceux qui dépendent de René Char attendent de lui l'ordre de tirer. Ils ont tous un ennemi en ligne de mire. Char sait pertinemment que s'il sauve son copain le lendemain, c'est le village et celui d'à côté qui vont être zigouillés. Il prend la décision de ne pas tirer. Et donc le texte Fureur et Mystère, il y a 10 lignes. Probablement vous connaissez ça, mais en 10 lignes, qu'est-ce qui se passe dans l'œil des gars qui attendent que je leur donne l'ordre de tirer, je donne pas cet ordre. La littérature, là, à ce moment-là, elle est pas dans le livre. L'autre exemple, comme ça, c'est Daniel Arms, ce type qui est assassiné comme Mandelstam par Staline dans des conditions les plus abjectes, quoi. Vraiment, on le laisse crever de faim. Arms, à sa mort, il y a plus ou moins une valise avec des bouts de papier, quoi, des feuilles volantes et des choses qui font 10 lignes, 15 lignes, parce que il est matériellement hors de question de faire mieux. Autrement, en 74 seulement, alors qu'il est mort en 42, ce truc-là est imprimé en URSS, à l'époque URSS. Et quand c'est imprimé, tous les Russes connaissent Arms par cœur. C'est-à-dire que là encore, pas de conclusion, mais se dire que dans cette histoire-là, même le statut même du livre, ne jamais raisonner comme ça en termes de portage de l'existant, mais que cette espèce de truc qui se reconfigure constamment, dans ces reconfigurations-là... c'est ça, ce genre de mutation, c'est-à-dire que il n'y en a jamais une qui n'a pas été ni réversible ni évidemment globale. J'aurais voulu terminer sur l'imprédictibilité, c'est-à-dire en 15 ans tout ce qu'on regardez ce qu'a été pour nous l'arrivée du CD-ROM. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec ce truc-là? En même temps que le CD-ROM arrive un truc, une astuce là tout à l'heure là on parlait là, de la belle expression fibrer les quartiers de Lyon là qui veulent se doter de fibres optiques et puis qui créent comme ça ce néologisme. Dans ces mêmes années 2000 où paraissait le CD-ROM, voilà tout d'un coup quelques technicos allumés qui disent on peut se servir des vieux fils de cuivre du téléphone pour transmettre l'internet. À l'époque, l'idée c'était beaucoup plus de le transmettre par les prises de courant. Le courant il est sur du 50 Hz, donc il n'y a pas de problème si vous balancez des petites ondes à 30 000 Hz sur un truc à 50 Hz, ça le propulse. Le réseau de l'EDF il est parfaitement interconnecté à tous les voisins. A priori, la solution la plus évidente pour transporter, par exemple, dans les réseaux de trains dont on se servait, qui sont magnifiques à regarder comme ça, les ordres téléphoniques et la gestion des signaux de la SNCF, mais même s'il y a des déraillements ou des accidents, c'est pas tous les jours, ça passe par le réseau électrique des caténaires et tout ça, bon, on s'en fout. Mais en même temps, donc, a priori, utiliser les vieux fils de cuivre pourris des vieux téléphones pour transporter un signal avec cette astuce de le rendre asymétrique, avec des paquets qui vont plus vite dans le sens descendant que dans le sens montant, c'était juste un truc plus ou moins de dépannage. Or, tout d'un coup, avec la DSL, ce qui se passe, c'est que tout le monde est déjà câblé, et bon, il se trouve aussi que 10 ans après, globalement, on se sert toujours de ces trucs-là, avec les dérouteurs et tout, pour les routeurs et les dégroupeurs et tous ces machins-là pour utiliser. Et comment ça se traduit à nous? Par exemple, à cette époque-là, on s'engueulait durement avec la Bibliothèque nationale, une fois que vous y serez, on s'engueulera plus, qui numérisait en mode image. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Par exemple, vous prenez un bouquin quelconque du 19e, page 1, évidemment, elle est blanche, page 2, elle est blanche, page 3, elle est blanche, page 4, vous aurez le faux titre, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si ça met 6 minutes à chaque fois pour charger, ça servait complètement à rien. Nous, la volonté, c'était de dire pourquoi vous numérisez pas en mode texte? Tout d'un coup, avec la DSL, on pouvait arriver non pas comme maintenant sur Gallica avec les visionneuses là, qu'ils ont et tout ça, mais à faire que le temps de chargement d'une page quasiment était le même temps que le temps de lecture quasiment anthropomorphe. Et tout d'un coup, l'énumération mode image de la BN, vous savez que ça, ça fait que tout d'un coup, si vous lisez Racine, vous avez l'édition originale de Racine avec sa ponctuation à lui et qui manifeste les inflexions de la voix et pas du tout les trucs grammaticaux, les corrections manuscrites et tout ça. Et finalement, le mode image devient une ressource comme ça démultipliée. En même temps, si vous regardez par exemple aujourd'hui Gallica, ce genre d'autres problèmes qu'on est capable de développer, par exemple sur les labos qui font sur Chrétien de Troyes et tout ça, si on développe ce genre de lecture, si vous regardez par exemple Baudelaire, les textes de ses copains Champfleury, Asselineau et tout ça, lire même un mode image d'un livre moderne, c'est-à-dire un texte même de 1880 ou même des textes de 1910, pour nous c'est comme lire un grimoire, quoi. On peut pas, un étudiant complètement évidemment impossible de lire à vitesse de lecture ergonomique un livre même comme ça de 1850-1860. J'arrête parce que ça se mélange dans tous les sens. On parle ensemble. Désolé du bazar, mais ça, quelque part, ça doit vous rassurer. On ne peut pas faire mieux que ça de notre côté, donc il n'y a pas trop de danger pour l'instant.
Bonjour. Je voulais vous poser une question à propos de votre édition numérique PubliNet. Et je voulais vous demander comment vous conceviez, par rapport à tout ce que vous avez dit, le livre numérique actuel que vous publiez, qu'est-ce matériellement, comment vous le concevez, comment vous, quel est votre, voilà.
Ça, c'est ce qu'on va faire de 4 à 6 là, en petit comité. Mais globalement, le livre numérique ne m'intéresse pas. Je pense que c'est simplement une espèce d'avatar provisoire. Ce qui est important, c'est les usages de lecture. Et ces usages de lecture, pour ça, je parlais reproductibilité, transmission et tout ça. Pour moi, l'étage essentiel, c'est le web. Et quelque part, par exemple, même la notion d'écran, c'est-à-dire qu'on a aussi bien dans ce petit machin que enfin, quelle que soit la taille comme ça et que la différence d'écran, c'est que par exemple, en ce moment, ce type, là, cet Indien là, qui a inventé l'expérience qui s'appelle Sixième Sens. Je pense que l'Internet devient évidemment de plus en plus invisible. C'est-à-dire que dans tous nos usages privés, sociaux, professionnels, notre rapport, il est au numérique et la fonction écran, c'est-à-dire la fonction qui nous assure cette médiation, c'est-à-dire acheter son billet de train sur la borne orange de la gare Lyon-Pardieu ou vérifier vite combien il faut d'œufs et puis de farine dans la constitution d'une quiche lorraine ou est-ce que la piscine le dimanche elle ouvre à 10h ou à 9h. Cet usage comme ça, ce recours à Internet, on le prend par la bécane qu'il y a sur place, on le prend indifféremment nous-mêmes dans ces logiques d'accès. Là, je viens de télécharger la bio de Keith Richards sur Amazon. Je peux la lire sur mon Kindle, sur mon truc. Je répondrai brièvement, mais elle pose une question à laquelle c'est impossible de répondre brièvement. C'est-à-dire, pour moi, dans ces usages de lecture, comment on réintroduit un étage de lecture dense et un étage qui renvoie à ce qui nous fonde comme communauté par le travail du langage. Quelque part, assister à ce qui prolifère là, par exemple dans Facebook, si on a affaire à dans le monde étudiant, ce qui se joue en ce moment. Littéralement fascinant là dans Twitter, qui est un outil qui est pas du tout encore il y en a plein ici qui l'utilisent, mais qui est un outil en pleine montée en puissance. Ce qui se joue par exemple, on parlait là de ce gars qui était là il y a 5-6 ans, je sais pas, il s'appelle Lionel Morel, là, qui est sur la rééditorialisation des flux, c'est-à-dire la lecture a priori, la lecture web, si je me connecte comme ça, je vais voir évidemment ces formes blog, je vais être encombré de menus, de navigation, c'est une lecture barbare qui ne permet pas l'écart qui permet justement la poésie, le travail sur le langage, etc. En même temps, on apprend tous, par exemple, autrefois, on allait acheter Le Monde à 4h de l'après-midi, ou le ou l'Humanité ou le Figaro selon qui on était, ou le Courrier de l'Ouest le matin, on avait une source d'information unique qui représentait comme ça une espèce d'écosystème avec des validations, le journal, le supplément du jeudi qui servait aux bibliothécaires à cocher, puis nous le Monde des Livres. Qu'est-ce que c'est surprenant encore le jeudi de se dire « Oh, j'en ai rien à foutre d'aller lire le Monde du Livre, j'ai oublié ». Mais on lance un regard noir, donc il faut que j'abrège. C'est... je veux dire, tout bascule là sur les prescriptions même et les usages de lecture individuelle. Quelque part, le livre, comme ça, avait cette supériorité d'installer un écart. Les outils, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur le premier qui a fait ça, enfin pas le premier, mais un truc qui s'appelle Flipboard là sur l'iPad. Donc, vous entrez simplement des flux, soit des flux Facebook, des flux Twitter, et qui vous redonne une lecture format magazine, en tout cas un étage de lecture dense et qui vous permet de lire comme ça un ensemble de sites internet que vous avez choisi. Vous pouvez mettre la rubrique politique du Los Angeles Times aussi bien que la rubrique actualité de la recherche, plus les blogs de vos copains et tout ça. C'est ça qu'on appelle rééditorialisation des flux. Tout d'un coup, là, c'est un outil qui paraît beaucoup plus puissant, même que justement ces formes où on dit livre numérique. Et ben, on est. Vous voyez, je m'en mêle. Ouais, voilà, mais je pas développer plus parce que ça c'est trop flou. Vas-y, ouais.
C'est une question aussi pour les bibliothèques et les futurs bibliothécaires. Ma question, elle porte sur justement le texte numérique qui est plus forcément délimité au livre, en fait. En fait, c'est aussi la question du livre qui n'était pas forcément... En fait, c'est comment reconstruire une collection, l'idée de la collection. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ou comment reconstruire un lieu qui serait une bibliothèque, non plus... pas forcément fait de livres, du coup, mais de textes numériques, numérisés. Ou de texte numérique, c'est-à-dire qu'un livre, un futur livre, peut peut-être être demain une page web. Et du coup, comment on construit une collection à partir de ça? Comment on imagine une bibliothèque? Voilà.
Ça va être bien, 14 minutes, puis on peut faire 80 réponses.
En fait, qu'est-ce qui fait
il y a un truc vachement important là.
Ce qui fait un livre aujourd'hui, on le sait, c'est la forme livre. Enfin, j'en sais rien, hein. Moi je sais pas non plus trop, je sais plus trop ce qui fait un livre en fait. Parce qu'au début je lisais des livres, et maintenant je m'aperçois que je lis du web. Et on me dit, bah c'est pas un livre, mais je lis. Alors. Et voilà, et ce qui m'intéresserait, c'est en tant que professionnel du livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre demain? Et comment on va poser des limites à ça? C'est-à-dire comment on va créer des collections là-dessus?
Il y a un truc important là, dans ce qu'a dit Isabelle. Déjà, c'est le livre, que le livre imprimé, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme étant justement la version actuelle de ce machin-là, dès à présent, c'est uniquement une illusion matérielle. C'est-à-dire que de nature, il n'est absolument pas différent d'un site. Ça, je voudrais justement, si on fait un petit atelier tout à l'heure, mais ceci dit, on peut rester jusqu'à 6 heures ici, comme ça aussi, c'est pas ensemble. C'est que dans votre traitement de texte, il y a une partie donc qui est le contenu même des textes, mais bon, tout ça vous avez dû le développer tout le temps. La partie texte, c'est rien, c'est des fichiers qu'on appelle XML. Après, vous avez la partie graphique qui sont des masques d'affichage et qui sont eux-mêmes justement ce masque d'affichage. Vous allez pouvoir le différencier selon que vous envoyez le truc à l'imprimerie ou que vous le fabriquez pour un affichage sur un iPad et autres. Et puis dans la même boîte à fromage, vous allez en ficher un fichier qui sera la table des matières, un fichier qui sera les index, un fichier qui sera les métadonnées, c'est-à-dire les titres, les ISBN, les mots-clés, tous ces machins-là. Et ça, c'est un enjeu politique énorme. Ça, on développera tout à l'heure aussi. Mais cette espèce de boîte à fromage, elle est entièrement constituée des mêmes fichiers qu'on utilise pour le site internet. Et de la totalité de l'édition imprimée, disons en gros, enfin, je parle sous le contrôle de Benoît qui doit développer ça de façon plus précise, mais quasiment depuis 2006, en tout cas l'énorme majorité de l'édition est déjà basée sur ce principe-là. Après, pour moi, quand je disais tout à l'heure, le livre numérique m'intéresse pas, c'est ce que j'aurais voulu développer là sur Baudelaire, Kafka, mais bon, j'étais trop tard. C'est que la pratique de la littérature, elle s'est jamais déterminée sur l'objet, elle s'est toujours déterminée sur la pratique. Et la pratique, elle est extrêmement diverse, multiple et tout ça, mais c'est-à-dire qu'elle inclut le travail quotidien, elle inclut le travail de documentation, elle inclut à chaque... Bon, par exemple, si vous regardez, si vous allez sur l'université de Rouen et que vous regardez le site Flaubert, ben vous trouverez les listes de livres lus par Flaubert dans la préparation de ses textes, vous trouverez les notes qu'il extrayait, qu'il recopiait de ses livres, vous trouverez les plans et les scénarios, et l'œuvre imprimée, pour nous, elle est complètement indissociable de cette totalité-là. En même temps, Flaubert, vous savez, ça incluait aussi, par exemple, un temps pour lui qui était extrêmement précieux, le moment où, quand il avait fini un chapitre, il appelait ses copains pour le lire à haute voix en direct, ça incluait aussi après les publications en revue et tout ça et tout ça. Et après, il y a non seulement les éditions, mais par exemple, si vous achetez une édition de poche aujourd'hui, un truc moi qui me paraît toujours très scandaleux, mais on se sent obligé, si on édite Madame Bovary, de réintroduire en note à la fin les réquisitions du procureur Pinard pour obscénité, comme si ce procureur Pinard avait encore de l'importance pour nous 150 ans après. C'est-à-dire que là encore, le matériau critique et tout ça, c'est-à-dire que je zappe. La question, c'est que dans notre appréhension de l'œuvre, il y a déjà ce décalement. Enfin, il y a toujours eu, même dans le livre imprimé, elle n'était jamais réduite à ce qui est une espèce de chose qui pourrait être uniquement le texte littéraire. Mais avec évidemment ces pratiques, ces outils, pouvoir inclure dans un EPUB un texte audio, pouvoir inclure des liens, là par exemple on vient de faire une petite expérience avec un Patrick Deville qui travaille sur une fille qui vivait à l'époque qui était une compagne de Diego Rivera, donc et puis où on trouve Trotsky, l'assassin de Trotsky, William Burroughs, tous ces machins là on trouve des bistrots avec du tango et tout, de recouvrir comme ça complètement un texte de façon invisible avec des liens Wikipédia. C'est-à-dire qu'à chaque instant, si on veut pas, on lit de façon continue. Mais si un truc, quelle soit leur curiosité, un simple appui comme ça, et on va glisser du texte à une documentation qui va nous envoyer sur du réel, qui va nous envoyer comme ça sur des images, sur des documents sources, et avec cette espèce de truc qui est que, évidemment, on n'a jamais lu de façon close. C'est-à-dire quand on lit, on peut avoir un dictionnaire à côté de soi, on peut entendre la conversation, on peut repartir, évidemment, on lit Conrad, ben on va vouloir... Allez, ce que je veux dire, c'est qu'on change pas l'équilibre autour précisément de cette ouverture, et qu'un livre n'a jamais eu de limites comme ça, aussi nettes et tout ça. Mais avec ces outils numériques, on peut faire en sorte que la complexité au niveau du surgissement, au niveau de l'écriture, et dans ce qu'elle inclut même d'expériences réelles et tous ces trucs-là, on puisse nativement les porter dans l'objet. Effectivement, dans ce cas-là, pour moi, c'est là où la notion de livre numérique s'annule, c'est-à-dire les livres imprimés sont déjà des sites web et donc incluant ce truc-là, mais nous de notre côté, c'est cette complexité-là finalement qui devient le lieu de notre usage de lecture le plus commun, quoi. C'est pas une réponse et c'est pas une question sur les collections et tout ça, mais personne heureusement a de réponse aux questions d'Isabelle depuis jamais.
Alors, vous avez, dans les différents exemples que vous avez donnés de supports d'écriture, vous êtes resté dans. Vous avez parlé de textes d'écriture, par exemple, en parlant des textes.
Par opposition aux écrits de l'archive, Et aujourd'hui, il y a une espèce de possibilité, quand on parle de l'expérience, finalement, c'est pas celle-ci. Quand on veut écrire, on peut aussi choisir la forme que l'on veut, et avec la question qui arrivait derrière, c'est comment les publics peuvent, est-ce qu'ils pourraient détecter la forme voulue par l'auteur, ou est-ce que finalement, la possibilité de la réutilisation des publics, ça change complètement le rapport aussi entre le fond et le public.
Vous êtes parfaitement conscient qu'il y a au moins 12 questions dans la question posée là. Et dans ces étages multiples, évidemment, personne n'a de réponse non plus à ça. Il y a des choses sur lesquelles je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Par exemple, une phrase qui me revenait tout à l'heure, c'est Rabelais, vous savez que quand il est venu à Lyon, c'était bon, et c'est une fois débarrassé de Montpellier où il avait soutenu son diplôme, fait son cours d'anatomie sur un pendu, payé 5 livres, 5 sols, qu'il a gardé 4 mois, donc ça devait pas être très frais au bout. Il arrive à Lyon, et là, à Lyon, leur truc, c'est de publier des œuvres savantes. C'est-à-dire, il y aura une topologie de Rome, lui, donc, tous ces trucs médicaux et tout ça, et dans cette communauté il y a un moment donné où on produit une espèce de recueil de blagues d'étudiants, tout simplement pour avoir dû faire tourner un petit peu la machine. Bon, ça répond pas juste, qu'il y a dans Pantagruel, il y a une phrase comme ça vachement belle sur à Lyon, comme de faucher en été, en cave bien fraîche, avec ganivet... comme de faucher en été, en cave bien fraîche, bien garnie de ganivet de Lyon, tarabin, taraba. Voilà. Et c'est-à-dire que le choix du papier, ce ganivet en question... Non, le ganivet, je me mélange, c'est le petit couteau, canif, pour le couteau. Mais la préparation du papier, le temps comme ça d'écriture avec l'été et tout ça, c'est-à-dire que le choix de ce contexte, pour Rabelais, c'est déjà là. Il y a une... Par exemple, pour Flaubert, il y a une espèce de moment comme ça où il prend une rage considérable, parce que lui, quand il partait pour, par exemple, quand il part en Égypte, il taille 120 plumes d'avance. Quand il fait un chapitre, il commence par tailler 15 plumes, 20 plumes de plumes d'oie naturelles, et à un moment arrivent comme ça les plumes de fer, et lui c'est une colère monstre, parce qu'il dit, c'est ceux qui n'auront pas pris le temps de tailler leurs plumes, comment ils peuvent sauver ce qui est l'inflexion de l'écriture et tout ça. L'exemple encore plus frappant, c'est Balzac, c'est-à-dire il y a ses manuscrits, il les confie comme ça, donc il écrit en gros de 3h du mat jusqu'à 7h, donc un temps de 3-4 heures comme ça qui est son premier jet. Ensuite ce premier jet, il l'envoie pour composition à l'imprimerie, il peut pas composer lui-même. Et on lui amène ce qu'il a écrit la veille, qui vient d'être mis sous placard. Et dans ces placards, donc avec une masse blanche autour, de 7h à 11h, il prend un bain avant, mais de 8 à 11, il se fait livrer un bain chaud dans les périodes qui durent environ 14 jours ou 20 jours d'écriture, jamais plus. Il réécrit sur ce placard d'imprimerie, c'est-à-dire qu'il convoque là aussi le procédé technique comme étant une phase comme ça. Donc, ça, pour moi, c'est juste le volet de la réponse, en termes que la nouveauté qu'on a à se saisir comme ça de l'outil pour fabriquer du texte plus complexe, c'est pas un processus en soi qui est nouveau. Par exemple, les moments, ces trucs qu'on retrouve, par exemple Nerval fait des photos, Rimbaud aussi, Zola va laisser 7000 plaques de verre de photos, donc ce rapport aussi comme ça à travailler sur d'autres rapports au réel via l'image, c'est pas des choses forcément qui sont nouvelles. Après il y avait l'autre volet, mais évidemment après pour moi c'est la question, elle est là, c'est-à-dire
est-il légitime de demander à un auteur de maîtriser, par exemple, le HTML? C'est incroyable si les corporations, des musiciens, des sociologues, des physiciens, des astronomes se comportaient comme les écrivains, tous mes potes dont je vois les bouquins en librairie, on serait une société morte, quoi. C'est-à-dire ce refus de dire, pour moi, le blog, l'arrivée du blog en 2004, ça veut dire que tout d'un coup, on n'a plus besoin de s'approprier techniquement le code et le HTML pour intervenir sur le web et prendre en charge son identité numérique, avec des choses qui deviennent très complexes. Par exemple, des copains comme Jean Echenoz ou Olivier Cadio. Olivier, son adresse est olivier@cadio.net et Echenoz, c'est je vais pas vous le dire de mémoire, mais c'est contact@echenoz.org. C'est-à-dire que tous les deux ont jugé utile pour leur identité numérique de s'approprier un nom de domaine à leur nom, au moins. Donc echenoz.org et cadio.net. Pour autant, ni l'un ni l'autre ne pratiquent le web. Ça, pour moi, c'était dans la suite des questions que vous disiez, il y avait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, aujourd'hui, de quel droit des auteurs, sous prétexte comme ça, de cette validation symbolique de l'autorité du papier, des rituels de l'écrivain avec un grand H, se dispensent d'aller dans le web? Pas de réponse. Pour moi, c'est hallucinant. Pour moi, le seul risque qu'ils prennent, c'est tout simplement que la génération de ceux qui arrivent, c'est pas une question d'âge, mais une question, justement, comme ça, de présence via ces outils web, les fiches se superposent à eux complètement et les éliminent. Mais c'est le risque qu'ils prennent. L'autre question qui était sous-jacente après dans ce truc très complexe que vous avez dit, c'est que le mot écrivain, il date du XVIIe siècle. Hein. Montaigne ne l'emploie pas. Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre. Historiquement, on la voit naître, on la voit arriver, et le passage de cette fonction à ce rôle, ce statut qu'il a à partir du XVIIe siècle, pour des Rousseau, pour des Diderot, etc., c'est très clair. Mais son instance de fétichisation sociale, et là, c'est pas moi qui emploie ce mot, c'est Roger Chartier au Collège de France, et les conférences de Chartier, enfin, c'est peut-être là pour nous un petit peu aussi une mine là, de pensée, d'intelligence et tout ça, c'est au 19e, c'est-à-dire c'est quand l'imprimerie prend le pas finalement sur la presse, ou du moins que la presse trouve, par exemple, il y a un moment très bizarre où Edgar Poe fait son propre magazine, pas hebdomadaire, lui c'est une fois tous les 15 jours. Dickens fait un mensuel, Dostoïevski fait un hebdomadaire, c'est-à-dire que ce rapport comme ça, presse-roman, et que le roman c'est simplement un fil continu par rapport à des écritures qui parlent de la même chose, les faits divers, l'actualité, des choses comme ça d'ordre faible, au 19e on a toute une, enfin au moins par Dickens, Dostoïevski et tout ça, Balzac fait plein de tentatives aussi, ça se sépare pas. Par contre, il y a un moment, la presse prend sa fonction comme ça, et l'imprimerie reprenant comme ça cette force, à partir justement de Zola, Goncourt et tout ça, je simplifie, mais c'est des choses qui tiennent pas de moi, ces analyses, constituent l'auteur comme référence symbolique, finalement, quasiment en avant de l'œuvre. On ne peut pas développer tous ces trucs-là, mais c'est quelque chose d'extrêmement fragile, extrêmement récent. Effectivement, avec ce que change comme ça la publication web et le fait un truc moi qui m'émerveille depuis 10 ans, c'est en quoi les outils de validation et de reconnaissance des lieux comme ça de surgissement web, dans les blogs qu'on lit, dans comment on arrive à détecter un truc, oui, qui va nous correspondre et tout ça. Que cette reconnaissance et cette validation symbolique trouvent finalement leurs propres outils en même temps que s'élargit la masse et la profusion. Que la notion symbolique d'écrivain qui fonde comme ça les rentrées littéraires, les prix littéraires et tout ça soit explosée en vol au passage, c'est pas du tout gênant. Mais bon, après, c'est...